aujourd'hui, c'est une des séances qui est un peu liée au travail de recherche que j'ai pu faire, un peu comme celle sur les ingénieurs. J'ai commencé ma carrière en travaillant pas mal sur l'histoire des ingénieurs. Et j'ai quand même aussi beaucoup travaillé sur l'histoire des villes. En fait, ce dont il va s'agir aujourd'hui, c'est des relations entre technique et espace, technique et ville, à propos de la question de la ville des réseaux. Et puis, je vous parlerai finalement de comment la ville des réseaux est advenue, en prenant notamment l'exemple du Paris d'Haussmann, qui est dans une large mesure un Paris construit par des ingénieurs. Et puis, je me livrerai à quelques considérations sur la ville intelligente, un peu plus rapide, mais il est évident que sur la ville intelligente, vous avez ces ouvrages tout à fait remarquables que vous pouvez, bien entendu, consulter. Alors, il va s'agir aussi un petit peu de déconstruire, d'essayer d'étudier un peu cette notion de réseau, qu'est-ce que ça veut dire un réseau, etc., en ayant présent à l'esprit, parce qu'aujourd'hui la ville, on dit souvent la ville c'est une question de réseau, etc., et en tant qu'ingénieur, n'oubliez pas que parmi les débouchés de cette école, vous pouvez vous occuper de réseaux urbains, de grandes infrastructures urbaines, aussi de planification, etc. C'est quand même un domaine qui a encore de beaux jours devant lui, parce que ça bouge assez vite. Alors la première chose à se dire, c'est qu'en fait, les réseaux, ça peut paraître purement technique, mais on va y revenir, c'est toujours à la fois de la technique et de la politique. Par exemple, il y a quelques années, à propos du réseau du Grand Paris, vous aviez grosso modo deux options qui s'opposaient. Une option qui était très proche de Paris, le truc en rouge, à l'exception d'une liaison vers Roissy, et puis une option qui allait chercher plus loin, finalement, le réseau du Grand Paris. Et derrière ça, il y avait l'opposition de deux modèles de développement de la métropole, un modèle qui aurait été plus centré sur la consolidation de la ville dense actuelle et un modèle qui était beaucoup plus croissance urbaine et qui englobait notamment, c'est pour ça qu'il va aussi loin, le projet de Saclay de développement d'une cité universitaire à Saclay. Donc vous voyez, les réseaux, c'est toujours inséparable en fait des questions de politique et des questions de politiques urbaines. C'est inséparable de la question où vont les villes, quel est l'avenir qu'on leur dessine. C'est d'autant plus vrai qu'il se pourrait très bien aujourd'hui que l'entrée par les réseaux, ça soit une des dernières façons qu'on ait de contrôler les métropoles gigantesques qui se développent un peu partout. Prenez Shanghai, par exemple, probablement... D'ailleurs, j'ai dû inverser. Oui, j'ai oublié de mettre la diapo. Shanghai est probablement une ville qu'on pilote aujourd'hui au moins autant par ses infrastructures que par des techniques, des politiques urbaines plus traditionnelles. Alors, vous connaissez mon goût des plans un peu compliqués. Donc, je vais vous avoir un plan en quatre parties. Première partie, c'est qu'est-ce que c'est qu'un réseau ? Parce que ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est de vous dire que les réseaux, ça n'existe pas dans la nature, contrairement à ce qu'on entend souvent dans les revues scientifiques, etc. En fait, c'est une certaine vision d'un certain nombre de problèmes. Donc je vais essayer un peu d'éclairer ça. Et notamment, il y aura pas mal d'histoire cette séance, on ira de l'histoire à l'actualité, en regardant aussi une période où on n'avait pas la pensée des réseaux. Donc ça s'est développé comment, cette histoire de réseau, en fait, très grosso modo, pour sans rien dévoiler de l'intrigue palpitante qui va suivre, à partir de la fin du XVIIIe siècle, va se développer la pensée des réseaux qu'on connaît encore jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, j'essaierai aussi de clarifier un petit peu, finalement, les réseaux, ça correspond à quoi, notamment en introduisant l'idée de projet transactionnel que j'ai emprunté à un géographe qui a longtemps été enseignant ici, Gabriel Dupuis. Et puis, je vais prendre un exemple historique pour vous montrer ce que c'est qu'une ville pensée à travers des réseaux. Exemple historique qui sera le Paris d'Haussmann et de ses ingénieurs au XIXe siècle. On va voir que les ingénieurs, s'il y a une aile Belgrand dans cette école, c'est qu'il y a un ingénieur des ponts et chaussées qui s'appelle Belgrand, qui a en fait complètement repensé l'adduction d'eau et les égouts à Paris. D'autres ingénieurs vont s'occuper de la voirie, des plantations, etc. Donc on parlera un peu de ça. Et puis, c'était quoi le projet derrière cette ville irriguée par des réseaux du XIXe siècle ? Ce qui ensuite m'amènera donc à essayer un peu de généraliser cette question des réseaux et de la ville, et ce qui m'amènera ensuite à poser la question, finalement, quid aujourd'hui de cette idée de smart city, de ville intelligente dont on entend beaucoup parler ? En quoi c'est une continuation de cette pensée de la ville et des réseaux, en quoi ça pourrait peut-être marquer un début de rupture. Donc on ira quand même assez proche de l'actualité. Et ce qui m'amènera au dernier point, qui est de dire finalement, on est dans une période un peu paradoxale, où à la fois, on n'a jamais autant parlé de réseaux, on voit des réseaux partout, et en même temps, il y a un début de crise de la pensée des réseaux, c'est-à-dire qu'on sait que dans un certain nombre de cas, ce n'est pas forcément la réponse universelle. On se pose des questions, par exemple, pour vous donner un exemple, pour les bidonvilles, le secteur informel, ça représente à peu près 30% du bâti urbain mondial, à peu près un tiers. Ça diminue un peu en importance par rapport aux décennies précédentes, mais enfin, ça augmente en quantité absolue à cause de l'urbanisation. Et les réseaux traditionnels, c'est très peu adapté au durcissement progressif, à l'organisation progressive des bidonvilles. Donc, vous voyez des challenges qui ne sont pas forcément simples à relever. Donc, on parlera un petit peu de ça vers la fin. Et puis, je reviendrai aussi sur le fait que la ville intelligente, ce n'est pas non plus la panacée. En fait, il n'y a pas de solution clé en main sur les problèmes urbains contemporains. Et ce que j'espère, finalement, c'est que vous comprendrez que c'est finalement, dans une école comme ça, c'est un peu à vous, pour ceux qui s'intéresseront aux questions de ville, de relever tous ces défis. Parce qu'on n'a pas encore la solution. Donc, c'est bien. En général, quand on n'a pas la solution, ça vous laisse de quoi essayer d'imaginer l'avenir. Alors, première partie, question très très bête, qu'est-ce qu'un réseau ? On pourrait croire que les réseaux, ça existe dans la nature, on voit des réseaux à peu près partout. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, on est beaucoup revenu sur les interprétations de l'ADN simplement comme code, et qu'on voit beaucoup plus le fonctionnement, en fait, du codage génétique comme quelque chose de beaucoup plus compliqué, dans lequel vous avez des effets de réseau entre molécules, et toutes ces choses-là. Donc, c'est un peu cette idée, en réseau, c'est... pas tout à fait une chose, c'est un peu plus compliqué. Donc on voit, par exemple, on a tendance à s'intéresser à ce qu'on appelle les protéomes et puis des réseaux d'interaction entre molécules, etc. Donc on pourrait croire que la nature tout entière est peuplée de réseaux. Et même, encore une fois, le fonctionnement du corps humain, c'est des choses qui fonctionnent en réseau. De la même façon, pendant longtemps, il y a eu la métaphore, par exemple, du petit calculateur à l'intérieur du cerveau. Aujourd'hui, on voit le cerveau, je vous ai déjà un peu parlé de ça, plutôt comme un réseau de modules qui dialoguent les uns avec les autres, qui échangent des informations, qui se synchronisent ou se désynchronisent. Quand ils se désynchronisent trop gravement, ça pose de graves problèmes de pathologie mentale. Donc, un espèce de mini-internet intérieur au cerveau. Donc, bon, la société elle-même est conçu souvent comme un ensemble de réseaux. Il ne vous a pas échappé que les réseaux sociaux, tout ça, oui, ben on retrouve des formes réseaux. Vous avez des gens qui analysent finalement comment tout ça fonctionne, etc. On en avait là aussi un petit peu parlé. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'un réseau, ce n'est pas comme les tigres et les girafes, ce n'est pas une catégorie, une espèce stable. C'est quelque chose qu'on a inventé à partir d'un certain moment pour rendre compte d'un certain type de phénomène. Alors, ce qui est intéressant, des phénomènes à la fois naturels et artificiels. Un réseau, c'est une catégorie dans laquelle on fait entrer des objets, des choses, par exemple des voies ferrées, des fils de téléphone, pas seulement des protéines, ou etc. Alors, la particularité, évidemment, en simplifiant, parce qu'on ne va pas faire de l'inutilement compliqué, c'est qu'on voit apparaître, quand on parle de réseau en général, des nœuds, et puis des liaisons entre les nœuds, avec l'idée que quelque chose circule, s'échange, passe d'un nœud à l'autre. Alors du coup, toute une série de dimensions apparaissent sur lesquelles se sont penchés les gens qui travaillent sur les réseaux. Par exemple, c'est organisé comment le système des nœuds ? Un exemple, l'Internet doit beaucoup à des réflexions qui se développent dans les années 50 sur la sécurité des réseaux électroniques. Ça, c'est un monsieur, ce que vous avez sur la gauche, vous l'avez vu déjà, ça, ou pas ? C'est le diagramme dit d'un monsieur qui s'appelle Paul Baran, qui défend l'idée de décentralisation des réseaux électroniques pour résister, en fait, à l'époque, c'est l'époque de la grande paranoïa à l'égard de l'Union soviétique, pas notamment sans fondement d'ailleurs. Et donc on se dit, il faut absolument que le réseau soit décentralisé, parce que s'il est décentralisé et qu'on frappe le centre, tout est désorganisé. Et même une décentralisation partielle ne suffit pas, et Paul Baran va se faire l'avocat d'une déconcentration totale du réseau. Ce qui va... Alors on retrouve ça, par exemple, à gauche, vous avez à droite, vous avez un rapport d'AT&T de 1958, et vous verrez, si vous regardez plus en détail, vous voyez qu'AT&T sont très préoccupés par l'idée de court-circuiter, de bypasser les villes, pour là aussi, avec dans l'idée que si on désorganise une ville, on désorganise aussi tout le réseau de télécommunications américain. Donc, des idées d'organisation de réseau. Ce qui reste, il va rester de ça jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'Internet est redevenu beaucoup plus centralisé que dans les années 70 au tout début. C'est la circulation par paquet. En fait, Baran, dans ce papier aussi, préconise de segmenter la circulation des messages et de les faire passer par paquet là où ils peuvent passer. Et ça, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez, ces questions d'architecture des réseaux, c'est des questions qui ont un rôle tout à fait important dans le développement des infrastructures. Alors ensuite, bon, cela dit, revenons au réseau proprement dit. Une des questions qui se pose dans un réseau, qu'est-ce qui s'échange et selon quelles règles ? C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez des rails que vous avez un réseau de chemin de fer. En fait, dans un réseau, il faut préciser ce qui s'échange et c'est quoi les protocoles d'échange. Même une route, ça demande un code de conduite pour savoir ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire et qu'est-ce qui est censé circuler sur une route et pas circuler sur une route. Dans la plupart de nos pays, par exemple, les routes ne sont pas considérées ordinairement, sauf les petites routes de campagne dans les publicités, comme des endroits où les moutons ont le droit de se prélasser. Vous voyez, il y a des choses qui ont le droit de circuler et pas circuler. Alors du coup, pour reprendre l'exemple des chemins de fer, eh ben, il faut en fait des règles. Il faut aussi des opérateurs qui s'occupent finalement de faire circuler les trains. Vous devez être particulièrement sensible à ça par les temps qui courent. Il n'y a pas que des conducteurs, il y a aussi des gens qui s'occupent des aiguillages au 19e siècle, etc., etc. Et c'est ça aussi qui fait le réseau. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et c'est pour ça que j'insistais au début sur le fait que le réseau n'est pas une chose. C'est qu'un réseau, effectivement, il y a souvent un substrat matériel, des rails, la chaussée pour les routes, etc. Mais il y a ensuite des choses plus, entre guillemets, moins directement matérielles. Il y a des règles de conduite, il y a des cultures professionnelles, il y a parfois même un imaginaire du réseau. Il ne vous a pas échappé qu'Internet, il y a un prodigieux imaginaire de l'Internet. Et tout ça, c'est ça qui fait le réseau. Du coup, ben, un réseau de câbles téléphoniques, ça peut servir aussi avec la DSL à échanger des données. Et du coup, vous voyez bien qu'en fait, la base physique, souvent, ça ne suffit pas à caractériser entièrement un réseau. Un réseau, c'est une espèce d'hybride de choses, et avec dans laquelle les questions de régulation, c'est-à-dire c'est quoi les règles, ça marche comment, etc., sont tout à fait importantes. Avec donc, finalement, l'idée, c'est qu'en pratique, un réseau, c'est l'association de choses ou de quasi-choses qui font maille, et puis des entités plus immatérielles, des règles, des savoir-faire, de l'imaginaire, etc. Un réseau, finalement, il y a toujours du hardware et du software. Du coup, un réseau, c'est quoi? C'est une certaine forme de perspective qu'on adopte pour organiser le monde, ou des fois le lire, comme lorsqu'on voit des réseaux dans la nature, ou l'organiser. Et en général, la lecture et l'organisation vont souvent ensemble. On pourrait presque dire que c'est une espèce d'épistémologie. Alors, avant de préciser ça plus avant dans le cas urbain, je vais essayer de vous montrer comment ça s'est fait dans le cas urbain, la réparation des réseaux, je voudrais évoquer maintenant la naissance de la notion de réseau à la charnière des 18e et 19e siècles. Parce que la meilleure façon peut-être de se convaincre que c'est quand même une perspective sur le monde, c'est en fait de revenir à l'époque où ça n'existait pas. Alors, ça n'existait pas pendant très longtemps, même des choses qu'aujourd'hui, spontanément, on pense sous les termes de réseau. Bah, c'était pas comme ça qu'on les voyait. Prenez les routes. Pendant très longtemps... Alors oui, première chose avant ça, réseau, ça vient d'où? Ça vient de raie. Et raie, ça désigne un petit filet. Si vous lisez Molière ou les pièces du XVIIe siècle, les belles dames prennent entre leurs raies les cœurs de leurs amoureux. Réseau, ça vient de là, ça vient du filet. Là, c'est un traité des pêches du XVIIIe siècle. Vous voyez, j'essaye quand même de trouver une iconographie riche et variée. Qui renvoie tout à fait à cette idée, finalement, de filet. Alors, ce qui est bien et sympathique, c'est qu'en anglais, c'est exactement la même origine. Network, net, c'est le filet. Donc, en fait, cette espèce d'idée d'une maille qui, avec des nœuds, donc, et des câbles. Alors, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, on ne pense pas que le territoire, par exemple, soit couvert de réseaux. Et par exemple, les routes, on les pense plutôt sur le mode de l'itinéraire. Et ça, c'est quelque chose qui va durer quasiment jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Par exemple, Lorsque un moine anglais, Matthieu Paris, va de Londres à Jérusalem vers 1250, eh ben, sa représentation du monde, c'est la route, c'est un grand ruban qui se déroule. Ici, d'ailleurs, on arrive à Paris, ou qui est symbolisé par une espèce de château fort au milieu de la rivière, c'est le palais du roi. Et puis ensuite, on continue dans ce grand itinéraire qui est linéaire. Ça va demeurer très longtemps, c'est-à-dire encore au XVIIe siècle, si on fait un saut considérable dans le temps, vers 1675, vous avez le premier atlas des routes qui est jamais publié en Europe, et cet atlas de M. Ogilby, vous pouvez voir, en fait, les routes sont découpées en des séries de tronçons, mais il n'y a pas du tout cette espèce de vision transversale et maillée du territoire qui va se développer au XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour avoir cette vision maillée? Je vous disais tout à l'heure, il y a de l'imaginaire. Une des choses qui va beaucoup jouer au XVIIIe siècle, c'est que l'idée, c'est que le territoire, c'est comme un grand corps, un peu à l'imitation du corps humain, et que du coup, c'est parcouru de voies de circulation. Et évidemment, quelque chose qui va jouer un rôle très important dans la naissance de l'idée de réseau, c'est le réseau sanguin et finalement les réseaux du corps humain, qu'on va d'ailleurs pour la première fois considérer comme des réseaux. Ça fait à peu près un siècle et demi à l'époque qu'on a découvert la circulation sanguine. Et au bout d'un siècle et demi, on va se dire, bon sang, mais bien sûr, tout ça, ça forme un espèce de système capillarisé, et on commence à utiliser cette idée du réseau. Alors, il va falloir, et du coup, avec l'idée, par exemple, que les routes, c'est un peu l'analogue des artères dans le corps, ça fait circuler les choses de manière à ce que l'économie, etc., soit vivifiée. Ensuite, évidemment, deuxième chose qui va pas être simple, découvrir que les routes, on peut les considérer un peu comme les artères et tout ça fait partie du même système. Considérer que les routes, elles ont des rapports les uns avec les autres et qu'on peut donc les ranger, les mettre dans un espèce de système général. Alors, ce qui va jouer un rôle, c'est évidemment des pratiques, je vous disais, des règles. Par exemple, on va beaucoup s'intéresser au XVIIIe siècle au fait d'accélérer la circulation des nouvelles et des voyageurs importants avec ce qu'on appelle notamment les routes de poste. C'est le TGV du XVIIIe siècle, ça vous permet de faire en général Paris-Bordeaux en 5-6 jours, ce qui est vraiment l'équivalent de la vitesse maximale que vous puissiez atteindre sur les routes de France. Donc vous voyez, ça va quand même lentement, mais par rapport aux quelques semaines que vous mettez normalement, c'est du TGV. Et en fait, du coup, on commence à se dire, bon, route, système de route, on commence à se dire, c'est un système. Puis il y a un autre truc qui va jouer un rôle, c'est la création de l'école des ponts. Parce qu'on va leur dire, les gars, bon, maintenant, vous êtes en charge, pas d'une route, mais de toutes les routes du royaume. Et merci, s'il vous plaît, de penser à leurs connexions, etc. Donc, progressivement, cette idée va se développer. Alors, j'ai pris le cas français. En Angleterre, c'est un petit peu la même histoire, c'est-à-dire perception graduelle que les routes, ça forme un système, qu'il y a des règles qui s'appliquent à l'ensemble des routes, etc., etc. Un peu plus tard viendront les questions d'économie, c'est-à-dire qui doit financer les routes, toutes ces questions-là. Les utopistes, dont la semaine prochaine, je vous parlerai de l'utopie et des techniques, les utopistes vont jouer aussi un rôle parce que va naître aussi un imaginaire d'un monde en réseau. Par exemple, des gens qui s'appellent... j'oubliais avant. Alors, à propos des pratiques, il va y avoir des tas de problèmes. À partir du moment où on pensait toutes les routes d'un pays comme appartenant au même ensemble, des questions comme, par exemple, c'est quoi les techniques qu'on préconise? Alors, une grande révolution, ça va être ce qu'on appelle le macadam, qui va être d'utiliser des petits cailloux fins, très bien tassés, etc. Ce qui nécessite, ça a l'air simple, mais ça nécessite toute une culture technique différente de la culture traditionnelle. En fait, le macadam, c'est l'empierrage des routes, qui est quelque chose qui commence à la fin du XVIIIe siècle et qui atteint sa maturité. Il faut à peu près un demi-siècle pour qu'on sache empierrer correctement les routes. Là, vous voyez le contremaître qui surveille donc l'empierrage des routes. Du coup, d'ailleurs, la route, ça va être un autre héros, d'habitude qu'on célèbre pas autant que l'ingénieur, c'est le cantonnier, qui pendant longtemps va être le gars qui s'occupe de recharger en pierre les routes lorsqu'elles se ravinent, etc., etc. Donc, il y a tout ça. Et puis, il y a cette dimension un peu utopique. Déjà naît l'imaginaire d'un monde en réseau, bien avant Zuckerberg, dans lequel on va connecter tout le monde. Et les utopistes jouent un rôle. Par exemple, c'est des utopistes qui, curieusement, sont persuadés que l'avenir du monde, c'est des villages de type industriel, somptueux, c'est très permaculture, si vous voulez. Mais regardez ce qui part des villages. Vous voyez des réseaux de routes Donc un monde de villages en réseau. On n'est pas très loin d'ailleurs de discours qu'on va voir au début de l'Internet, avec cette espèce d'idée que l'avenir du monde, c'est en fait des villages à l'échelle de la planète en réseau. Donc tout ça pour dire que le réseau, la mayonnaise commence à prendre. Alors maintenant, bon, revenons quand même un peu plus généralement, après avoir parlé de la naissance de cette idée de réseau, à, bon, c'est quoi un réseau ? Alors, premier truc très bête, il n'y a pas de réseau sans un système, un double système à la fois de différence et de ressemblance. Différence parce que ben il y a des points, ils sont à des endroits différents et le réseau ça fonctionne et ça paraît très très bête mais je vais y revenir à propos de la ville, ça fonctionne sur l'idée de différenciation. S'il n'y avait pas de différenciation, il n'y a pas besoin de mettre en réseau les choses. Mais deuxième chose un peu paradoxale, c'est que ça fonctionne quand même sur l'idée qu'on va unifier des choses hétérogènes et donc on va les prendre dans une maille. Ok ? Du coup question, qu'est-ce que fait le réseau ? Ce que fait le réseau fondamentalement, après avoir exalté les différences, dit qu'en fait, par-delà les différences, tout ça pouvait être considéré comme des points possibles de réseau, eh ben, on va faire des projets de connexion entre ces points et ce qu'on appelle un projet transactionnel, pour reprendre le terme qu'utilisait Gabriel Dupuis, que j'ai cité avant. Donc l'idée, finalement, qu'il n'y a pas de réseau sans un projet de liaison. Ça peut être de la ville A à la ville B, ou si c'est un réseau de gaz ou d'électricité, du quartier A ou de l'immeuble A à l'immeuble B. Donc il faut mettre en relation les choses. Alors évidemment, ensuite, tout n'est pas possible. Ça, c'est le réseau idéal. Ensuite, on fait des choix. Des choix dictés par l'économie, des choix dictés par aussi les règles techniques, etc. Et du coup, entre le réseau, le projet idéal de réseau et le réseau réel, il y a des choix et c'est là où interviennent ces questions d'architecture des réseaux, etc. Ce qu'il faut peut-être de retenir de ce petit intermède, c'est peut-être deux choses. La première, c'est qu'un réseau a toujours une dimension de projet. Un réseau est toujours un devenir réseau de quelque chose. C'est pas complètement statique. D'où d'ailleurs la question cruciale de hier à aujourd'hui de la croissance des réseaux. Pour vous donner un exemple, les historiens adorent faire ce genre de carte. Je vous ai montré les routes de poste françaises. Pas à une échelle complètement différente. Fin 18e, tout début 19e, les routes de poste des jeunes États-Unis d'Amérique. Et vous voyez très très bien, au départ, le réseau, en fait, c'est quasiment uniquement une espèce de cordillère ou d'épines dorsales le long de la côte, et puis progressivement, ça se ramifie et ça rentre à l'intérieur des terres, et puis commence d'ailleurs déjà, on arrive au Mississippi et commence à se poser la question du passage à l'ouest. Donc finalement, un réseau est toujours un projet, et à cause de ce projet, la question de sa croissance se pose, et autre dimension, évidemment, parce qu'il y a toujours derrière un réseau, un projet de réseau, et bien ça a une dimension politique. Le réseau, c'est toujours un projet sur le monde. C'est pas encore une fois une chose statique, c'est quelque chose au travers duquel on projette le monde. C'est en ça d'ailleurs que c'est un outil pour l'ingénieur. C'est que ça sert en fait à penser l'aménagement du monde à travers un certain nombre de questions. Ça va, tout est clair jusqu'à présent. Alors maintenant on va passer dans l'histoire résolument et regarder Paris. Tel qu'il va être aménagé à partir du Second Empire par Haussmann et ses ingénieurs. C'est bien parce que du coup, ça correspond quasiment à la géographie de l'École des Ponts aujourd'hui. La plupart des grands ingénieurs qui ont illustré l'histoire de cette école, il y a au moins une salle ou un amphi ou Dieu sait quoi, ou une aile qui leur correspond. Bon, alors pour fixer les idées, parce que je sais bien que vous êtes tous des bons élèves, vous étiez tous de remarquables élèves, en témoigne votre mention au bac, mais je vous rappelle que le Second Empire, c'est 1851, après une première moitié du 19e siècle un peu confuse, Napoléon III prend le pouvoir, et puis très vite, il décide quand même, on va moderniser Paris. Pourquoi on va moderniser Paris ? Parce que Paris, à l'époque, est une ville encore très largement médiévale, c'est-à-dire le centre a été très peu touché par la modernisation, etc. Du coup, la question de la modernisation de Paris, comment l'adapter pour devenir la capitale, finalement, d'un empire qui va se développer économiquement, est une question qui est posée. En plus, Napoléon III, avant de rentrer en France, a été en exil à Londres en tant que membre de la famille Bonaparte, il n'était pas toujours le bienvenu sous la monarchie avant, et il a pu admirer le fait que Londres était plus moderne, en fait, que Paris au début du XIXe siècle. Donc cette question va se poser. Alors, c'est évidemment avant Haussmann, les réseaux étaient déjà arrivés, la pensée des réseaux à Paris, ce que va faire finalement Haussmann, le préfet de Paris, chargé par Napoléon de moderniser Paris, et ce qu'il va confier comme mission aux ingénieurs, c'est en fait quelque chose dont le programme s'était élaboré avant, en tout cas les outils conceptuels. En fait, les réseaux, ça arrive via la question du territoire, et ça arrive à Paris vraiment très littéralement via la question de l'adduction d'eau. Vous savez que Paris, parmi les trucs où Paris est très archaïque, Paris manque d'eau terriblement à la fin du XVIIIe siècle, au tout début du XIXe siècle, mais manque d'eau à un point qu'on boit l'eau de la Seine, qui était quand même une vaccination permanente contre à peu près tous les trucs de la Terre. Il y a des récits d'époque assez pittoresques dans lesquels on ouvre le robinet, vous avez des matières fécales solides qui tombent par le robinet. Non, c'était littéral. Hein. Enfin, c'était un truc... c'était la principale source d'eau de la capitale. Du coup, Napoléon Ier, pas III, mais Ier, s'était dit, bon, ça peut pas durer, Londres, eux, ils ont résolu ce problème, donc on va amener de l'eau à Paris. C'est pour ça qu'on va faire le canal de Lourdes. Et en fait, le canal de l'Ourcq arrive au bassin de la Villette, et à partir de là, un ingénieur qui s'appelle Mallet, autre ingénieur des ponts et chaussées, va pour la première fois dans les années 1820, donc il commence à travailler sous l'Empire et ensuite après l'Empire, en 1820, utiliser le terme de réseau pour distribuer l'eau dans Paris. C'est un réseau pas très compliqué, mais qui d'ailleurs, dont la trame existe toujours, c'est-à-dire grosso modo une espèce d'aqueduc ici, qui se déploie le long des boulevards, et ensuite, suivant la pente gravitaire, on descend vers le centre de Paris, notamment la rive droite, qui était totalement sous-alimentée. La rive gauche avait un vieil aqueduc, l'aqueduc d'Arcueil, mais la rive droite avait pratiquement pas de fontaine digne de ce nom. Donc, et on utilise ce terme réseau. Alors, les ingénieurs d'Haussmann vont utiliser très systématiquement cette notion pour moderniser Paris et même vont en fait transformer Paris en espèce de ville modèle, du capital des réseaux. Et c'est l'image que vont souvent retenir les visiteurs de Paris, cette ville transformée par la pensée des réseaux. Alors, bon, les réseaux, il y en a de toutes sortes. Par exemple, Belgrand, avant de donner son nom à une aile, est le type qui va poursuivre cette œuvre d'adduction d'eau et d'assainissement, et notamment capter des eaux de source parfois assez loin de Paris, comme les eaux de la Vanne, etc., amener tout ça à Paris par un système de canalisation, d'aqueduc, etc., et distribuer l'eau dans Paris. Donc ça vous donne le schéma des eaux de Paris que vous avez sur votre gauche. Et puis à droite, les égouts, autre œuvre considérable, il y avait très peu d'égouts dans Paris, il y avait un ou deux grands collecteurs sur la rive droite, et en fait, bon, c'est là où se passe, si vous avez des doutes là-dessus, et il y en a qui ont lu Les Misérables parmi vous ? Bon, c'est bien. Dans Les Misérables, vous avez une scène célèbre. Dans Les Misérables, vous avez une scène célèbre dans les égouts de Paris où Jean Valjean est poursuivi par le policier Javert. Et Victor Hugo, qui est un extraordinaire écrivain sur Paris, Notre-Dame aussi, il y a des descriptions de Paris. Il y a un très long développement de Victor Hugo sur la modernisation des égouts à Paris, qui est tout à fait étonnant et profondément juste. Sur la modernisation des égouts, etc. Donc ça, c'est l'œuvre de Belgrand. Au-dessus de ça, eh ben, les rues elles-mêmes, on va commencer, ça, c'est une carte des grands percements et des réaménagements haussmanniens, et en fait, qui est une espèce de bricolage, mais un bricolage qu'on va penser, on va repenser la voirie sous les espèces du réseau. Alors à Paris, il y a aussi un autre truc qui va renforcer tout ça, c'est que, en fait, les réseaux ont tendance à se superposer les uns les autres. C'est-à-dire, par exemple, les égouts sont en général sous les rues. L'adduction d'eau est souvent dans les égouts, ce qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on arrive à limiter les pertes d'eau dans Paris, parce qu'on arrive à accéder aux conduits, on n'a pas besoin de fouiller, on peut descendre dans les canalisations d'égouts. Vous me suivez toujours ? Le métro suit aussi les rues, pour la plupart, à la différence du métro de Londres, ce qui fait que c'est comme si vous aviez un calque. Vous avez empilé indéfiniment toujours la même figure de la ville en réseau. Ce qu'on voit déjà là, c'est-à-dire grosso modo, c'est quasiment le même plan, sauf que d'un côté, c'est l'adduction d'eau, et de l'autre côté, c'est les égouts. Et ensuite, vous rajouterez le gaz, plus tard, le métro, l'électricité, etc. Et vous avez cette ville qui s'épaissit sur le modèle de la ville en réseau. Ça va jusqu'à présent. Alors ça a des conséquences. Par exemple, penser les rues en réseau, une des conséquences aussi, c'est qu'on va, et la synergie, parce qu'on va aussi commencer à penser qu'il y a des liens entre la chaussée et l'égout. Et ça va amener notamment, alors bon, je suppose que ça ne va pas vous plonger dans un abîme de réflexion philosophique, mais une des grandes mutations de la chaussée urbaine, c'est que la chaussée traditionnelle jusqu'au XIXe siècle est une chaussée concave. Pourquoi ? Parce qu'on évacue les pipis, les eaux sales, tous les trucs par une rigole centrale. La chaussée moderne, lorsque vous avez un égout, elle se bombe légèrement parce qu'on évacue sur le côté pour faire passer dans les égouts. Donc, vous voyez des conséquences, il y a des espèces de synergies entre réseaux, même entre la chaussée et les égouts. Donc des choses même aussi simples que ça change. Quand vous avez une chaussée concave, en général, c'est que vous écoulez par le centre de la chaussée, qui était le cas de l'écrasante majorité des rues parisiennes jusqu'au XIXe siècle. Et en fait, le bombement, ça vient des routes en campagne qui étaient bombées, pour évoquer pas sur les égouts, mais sur le côté, l'eau. Parce qu'évidemment, évacuer l'eau, c'est une des grandes questions des chaussées jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous noterez, aujourd'hui, on n'en est plus là. Dernier renversement, on veut désasphalter, etc., pour faciliter l'absorption d'eau, parce qu'évidemment, les systèmes d'égouts n'en peuvent plus, des fois. Bien. Alors, chose à comprendre, c'est que j'ai parlé de différences et de ressemblances. Pourquoi on va penser la ville en réseau ? Une première chose, c'est qu'on va se dire c'est plus efficace, mais aussi on va se dire ça permet de réconcilier l'héritage du passé, le fait qu'une ville... Alors, et c'est ça la grande différence aussi entre la pensée des réseaux haussmanniennes et la pensée, par exemple, qui se déploie à New York aussi au XIXe siècle. Une ville... C'est fait de monuments hérités du passé, de lieux qui sont singuliers. Le quartier latin, c'est pas la rive droite, etc. Notre-Dame, c'est un monument tout à fait singulier. Donc, en fait, c'est un système de différence. Mais simplement, comme c'est une ville, c'est quelque chose qu'on peut intégrer à l'intérieur d'un même système de circulation. Donc, vous retrouvez ce couple différence et unification, mais sans abolir les différences. Et ça, c'est un truc très fondamental de la pensée des réseaux, c'est cette idée qu'on n'est pas obligé d'uniformiser, on peut intégrer dans un réseau des choses très différentes. J'y reviendrai par la suite. Ça circule des réseaux d'Haussmann à Facebook, si vous voulez. Cette espèce d'idée de l'intégration dans la différence. Du coup, ça permet de réconcilier l'existence de monuments historiques et puis l'idée qu'il faut circuler mieux parce que Paris est complètement engorgé de circulation avec ses rues très étroites. Pour vous donner une idée quand même de ce qu'était Paris au début du 19e, vous voyez la rue de la Harpe. Ça vous dit quelque chose? Là où il y a les mauvais kebabs de la... truc. Enfin, si vous voulez vous empoisonner pour pas cher, on est tous passés par là. Bon, ou la rue Saint-Denis sur la rive droite. Bon, c'était les rues les plus larges du Paris. Non, je sais à quoi vous pensez, mais ça devient maintenant la rue des bobos. Parfaite, la rue Saint-Denis, c'était les rues les plus larges du Paris d'Ancien Régime, rive droite et rive gauche. Donc vous imaginez, avant les avenues haussmanniennes, etc. Donc une ville très étroite, très serrée, très dense, etc. Donc les réseaux aussi, ça doit permettre de respirer, de faire circuler mieux, etc. Alors, du coup aussi, j'ai parlé de différence. Ça permet de mieux comprendre cette espèce d'étrange complémentarité dans la ville des réseaux, entre monuments et réseaux. L'Opéra de Paris, il fait partie de cette ville de réseau, simplement c'est un lieu singulier qui est connecté par la route, par des tas d'autres choses, plus tard par le métro, à l'ensemble de la ville. Et ça, c'est un aspect extrêmement important dans cette pensée-là, avec du coup d'ailleurs, parfois, c'est le réseau lui-même qui devient monument. À Paris, on est tellement fiers des nouveaux réseaux qu'on les fait visiter aux étrangers. La visite des égouts fait partie, ça c'est le grand collecteur sous le Sébastopol, ça fait partie des trucs obligés des princes étrangers, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, ils vont à l'opéra, mais ils vont aussi voir le grand collecteur. Et d'ailleurs, ça, à Paris, ça a atteint un tel summum, parce qu'en fait, jusqu'à la fin du Second Empire, on jettera pas la merde dans les égouts, parce qu'on veut qu'ils soient propres. Du coup, les trucs solides, on les évacue encore avec des charrettes, comme sous l'Ancien Régime, etc. Et ça, le tout à l'égout, c'est la fin du 19e siècle. Donc vous voyez, espèce de côté bizarre des fois. En fait, on veut transformer la ville en un modèle de ville des réseaux, quitte parfois à tomber un peu dans l'absurdité. Alors, c'est très différent de Manhattan. C'est-à-dire, à Manhattan, il y a beaucoup moins cette préoccupation d'unifier. La question des différences est bien moindre. D'abord, parce que ça, c'est le plan d'extension. Voilà New York vers 1811. Et ça, c'est ce qu'on appelle le plan des commissioners, qui est en fait une commission qui se réunit pour envisager la grille. Comment étendre New York? Et vous voyez, là, la question des différences, elle est moindre parce que c'est une ville complètement vierge. Vous noterez d'ailleurs, c'est pré-Central Park. On va créer quand même un événement en créant cet énorme parc dans la seconde moitié du XIXe siècle. Mais en fait, c'est une pensée de la grille extrêmement différente de celle d'Haussmann. La pensée haussmannienne, c'est d'ailleurs, en fait, curieusement, on aurait pu imaginer un Paris étendu en forme de grille. Les Haussmann et ses ingénieurs n'en veulent pas parce qu'ils pensent que ce n'est pas assez organique. Alors, le terme organique, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce que ça veut dire organique. Quand vous dites une unité organique. En fait, ça vient d'un très très vieux truc. Vous pouvez vérifier sur Wikipédia. Une année, il y avait un gars qui ne me croyait pas, qui avait vérifié. Vous vous souvenez de l'histoire romaine, vaguement ? Dans l'histoire romaine, vous savez, c'est comme partout, il y a les riches et les pauvres, les aristocrates et les plébéiens, et les plébéiens en ont ras-le-bol d'être méprisés par les aristocrates, donc ils font leur gilet jaune de l'époque, et ils vont se réfugier sur l'Aventin, qui est à l'époque en dehors des limites de la ville, et ils disent « on m'en bouge plus, on bosse plus, vous nous emmerdez, etc. etc. » Alors les aristocrates, premier jour, ils s'en foutent, deuxième jour, ils s'en foutent, troisième jour, ils se disent « merde, qui va faire cuire le pain ?» Donc ils envoient un gars en délégation pour parler aux plébéiens. Et le gars leur dit, vous savez, une ville, un État, c'est comme un corps humain. Il y a des organes, ils sont tous différents. L'estomac, c'est pas le cœur, c'est pas le cerveau. Mais il est normal qu'il y ait un cœur qui décide, on croit encore plutôt à ça, et un estomac qui obéit, etc. C'est comme ça que le corps fonctionne. Et si jamais l'estomac veut plus envoyer de nourriture au cœur, tout le monde meurt à la faim. Donc qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Ça veut dire qu'il y a des organes différents, mais qui participent à une même unité globale. Et c'est ça, cette idée qu'on va retenir, la ville organique des réseaux, c'est l'idée que les réseaux, ça permet d'intégrer l'hétérogène. Et c'est vrai que si vous pensez, le truc miraculeux du corps, c'est que vous avez ces organes différents qui sont intégrés dans toute série de mailles, les nerfs, la lymphe, évidemment le réseau sanguin, etc. Donc c'est une métaphore très puissante au XIXe siècle pour essayer d'expliquer ce qu'est une ville, et donc ce système de différence, même si, bon, encore une fois, on y est moins sensible à un endroit ou à un autre. Alors du coup, la maille complètement rectangulaire des Américains, ça paraît un peu trop mécanique aux ingénieurs français, qui se disent plutôt, on retrouve un peu cette espèce d'idée du réseau sanguin. L'eau, elle coule pas à angle droit. Elle coule en faisant des courbes, en suivant des pentes, etc. Donc, il vaut mieux avoir un réseau qui fonctionne un peu comme ça. Est-ce que je me fais comprendre? Ça va? Ça va jouer un rôle dans la suite, cette affaire. Alors, le réseau des réseaux, un peu surprenant, parce qu'il y a un réseau qui est plus important que les autres, et c'est pas celui auquel on s'attendrait. C'est pas la voirie, tout à fait, enfin même si ça a des liens avec la voirie, c'est pas les égouts, c'est même ni le gaz, ni etc., c'est en fait les plantations. Les plantations, c'est le gars qui en est chargé, c'est un gars qui s'appelle Jean-Charles Alphand. Alors c'est d'ailleurs un mystère, vous savez, je crois que je vous l'avais déjà dit, le grand mystère pour l'historien du 19e souvent, c'est qu'on ne sait pas quels étaient les prénoms usuels des gens. Par exemple, Navier, celui de l'amphi, Navier, ça va, mais alors si vous essayez de savoir, Navier, ses petits noms, c'était Claude, Louis, Marie, Henri. Alors, on ne sait pas s'il se faisait appeler Henri dans l'intimité, si pour ses élèves, c'était Claude, Louis, on ne sait pas. Et alors, Alphand, vous avez tantôt des publications où il s'appelle Adolphe, et tantôt des publications où il s'appelle Jean-Charles. C'est le même, mais on ne sait pas bien. Bref. Voilà. Alors moi, j'ai vous honnêtez, j'ai fait dans le consensus, hein, J-C-H-A, Alphand. C'était quand même le chef de tous les ingénieurs du Second Empire. Belgrand travaillait finalement sous ses ordres, etc. La meilleure preuve de ça, c'est un tableau qui est conservé au Petit Palais, sur la gauche, c'est qu'en fait, après la chute du Second Empire, il deviendra le coordonnateur des travaux de Paris, pour continuer l'œuvre d'Haussmann, sans avoir le titre de préfet. On va dissocier les travaux et la préfecture, mais ça sera le patron des transformations au début de la Troisième République. Et son œuvre monumentale, c'est un ouvrage qui s'appelle « Les plantations de Paris ». C'est un truc assez surprenant. C'est en fait sur la politique, on dirait aujourd'hui la politique des espaces verts parisiens. Alors c'est de ça maintenant dont je vais essayer de vous parler pour vous faire comprendre un peu c'était quoi l'ambition politique de ce truc. Parce qu'il y a aussi une ambition politique derrière tout ça. Alors vous voyez le frontispice, d'ailleurs il y a le square Saint-Jacques, ici je vais y revenir, c'est le rocher des buts de Chaumont, parce que tout ça c'est des créations d'Alphand. En fait Alphand, tout ce que vous avez comme espace vert dans Paris intramuros, plus Vincennes et Boulogne, c'est Alphand, à la base. Alors Alphand, la première chose, il va avoir l'idée d'un système, finalement, un système hiérarchisé et articulé en réseau, avec, et comme c'est un ingénieur des ponts, il aime la hiérarchie, donc il y a les super grands parcs, Boulogne et Vincennes, où d'ailleurs il va s'inspirer très directement de Hyde Park et Regent's Park à Londres. Et d'ailleurs, le dessin de certains détails de l'île du bois de Boulogne, etc., c'est pompé sur Hyde Park et sur Regent's Park. Donc ça, ensuite, vous avez les parcs finalement de deuxième classe, qui sont ce qu'on appelle entre guillemets les grands parcs intramuros de Paris, qui sont par exemple les buts de Chaumont, Monceau, qui était une ancienne propriété du 18e qui est transformée, Montsouris, qui est une création ex nihilo, enfin tous les grands parcs, le Luxembourg, qui était plus ancien, mais complètement redessiné par Alphand, etc. Et puis, voilà Montsouris. Et puis ça descend. Vous avez ensuite les carrefours. Alors, une des particularités du Paris haussmannien, je ne sais pas si vous avez remarqué, Paris n'a quasiment pas de piazza à l'italienne, etc., à part la place des Vosges et deux, trois trucs comme ça. À Paris, les 9 dixièmes de ce qu'on appelle une place, c'est un carrefour. Je ne sais pas si... Et en fait, il n'y a pas de place Navone ou du Campo de Sienne. Ça n'existe pas. C'est des carrefours. Et en fait, c'est des carrefours plantés. Et des fois, vous avez un truc inaccessible au milieu. Prenez la place d'Italie. Vous avez un espèce de jardin au milieu. Mais bon, c'est un peu au péril de votre vie d'aller dans ce jardin. Et c'est ça, finalement, une place haussmannienne. C'est en fait un élément de réseau planté. Et puis ça se termine par les plantations d'alignement. Et en fait, Paris n'avait pratiquement pas d'arbres. Il faut imaginer une ville très serrée. Donc encore une fois, rue de la Harpe, vous n'avez pas la place pour mettre deux rangées d'arbres. Donc tout d'un coup, avec ces nouvelles avenues, on va planter le long des rues des arbres. Donc tout un système qui va de l'arbre planté en alignement jusqu'au grand parc de la périphérie de Paris, en passant par tous les trucs. Alors en dessous de Montsouris, vous avez par exemple des choses comme les Batignolles, ou le square Saint-Jacques, qui sont des grands squares, qui, eux, sont des jardins, etc. En dessous, vous avez le carrefour planté, puis à la fin, l'arbre, avec un certain nombre de particularités qui sont assez modernes à certains égards. Un truc fascinant chez Haussmann, c'est que les objets naturels et les artefacts des ingénieurs sont mis exactement sur le même plan. Un arbre, c'est comme un réverbère, c'est un équipement technique. Oui, c'est une pensée très radicale de la nature. C'est une pensée, on pourrait dire, très moderne. C'est une pensée techno-naturelle. C'est un système technique qui englobe des éléments naturels et des éléments moins naturels. Vous voyez, ça, c'est les parcs, c'est le traité d'Alphand. Vous voyez, les égouts, l'adduction d'eau, tout ça, les réverbères, les arbres, ça fait partie du même vocabulaire. Du coup, d'ailleurs, avec des trucs très étonnants, au cas où vous n'ayez pas compris, dans les parcs haussmanniens, on va mettre des fleurs tropicales qu'on fait pousser tout l'hiver dans les serres, près de, vous savez, là où il y a eu une polémique sur la destruction des serres d'Auteuil, près de Roland-Garros. En fait, c'est là où on fait pousser les plantes. Et au printemps, on amène des plantes d'origine tropicale, etc., dans les parcs haussmanniens. Et on amène aussi des palmiers, des tas de trucs comme ça, pour bien vous faire comprendre. En fait, la nature, c'est un artefact gigantesque, etc. Et puis, au cas où vous n'ayez pas compris, c'est quand même une ville qui invente la grille pour arbres, qui grandit au fur et à mesure de l'arbre. Mais enfin, vous sentez bien, d'ailleurs, vous notez aujourd'hui, Hidalgo essaye de rompre avec les grilles et de mettre des trucs pour y jeter toutes les ordures, etc. Mais parce qu'on sent bien que derrière ça, c'est pas une pensée de la nature en liberté, c'est une pensée d'une nature complètement au service, finalement, d'un idéal urbain. Alors, pour comprendre ce qui se joue là-dedans, Peut-être la meilleure façon, c'est de prêter attention au parc qui a été le plus cher en termes de mètres carrés aménagés. Alors, ce n'est pas le parc le plus cher dans l'absolu. Les plus chers, en fait, le plus cher, c'est Boulogne, parce que Boulogne était une forêt royale qui était tombée dans un abandon presque total. Donc, en fait, elle était complètement replantée, redessinée, etc. Mais en mètres carrés, c'est les Buttes-Chaumont. Alors, il se trouve que j'ai fait une recherche il y a quelques années sur les Buttes-Chaumont, qui est une histoire assez fascinante, parce que c'est le dernier endroit au monde où vous auriez voulu implanter un parc. D'abord, c'était un endroit pourri de chez pourri de l'intérieur de Paris. Grosso modo, c'était un endroit où il y avait l'ancien gibet du Moyen-Âge, vous savez, Montfaucon, là où on laissait pourrir les cadavres pendant plusieurs semaines, suspendus à leurs cordes. Vous avez un poème de François Villon là-dessus, si vous ne me croyez pas, qui est un classique de la poésie médiévale. Après, il y avait des abattoirs. Et puis, je ne sais pas si vous êtes jamais demandé d'où vient le terme « Chaumont ». En fait, ça vient de Montchauve. Il n'y poussait absolument rien. Absolument rien, parce qu'il y avait de la glaise, il y avait du gypse dessous, il y avait des carrières de gypse, etc. Donc un endroit vraiment pourri. Et Napoléon III et Haussmann décident d'y mettre un parc. Alors, à quoi correspond cette espèce de logique bizarroïde ? D'y mettre un parc, et en plus un parc qui va coûter très très cher. Parce qu'en dessous, il y avait, pour achever le tout, il y avait des carrières de gypse, donc friables, etc., ce qui fait que le lac va disparaître 3-4 fois dans les sous-sols, enfin, un truc absolument monstrueux, qu'en fait, le petit promontoire qui est au bout de Chaumont, c'est l'ancien front de carrière de la carrière de gypse, etc. Alors, c'est un artefact complet, c'est-à-dire on amène de la terre, on remodèle tout le relief, les trois quarts du relief est faux, on va créer des collines, etc., etc., on amène toutes les plantations, etc., résultat, voilà, bon, le chantier des Buttes-Chaumont. Pour la petite histoire, même là, vous avez un truc qui ressemble à Étretat. Je me suis longtemps demandé pourquoi ce machin ressemble à Étretat. En fait, c'est que sous Alphand, le gars qui est en charge des Buttes-Chaumont, c'est un Normand de la région d'Étretat. Et en fait, il a fait, et si vous regardez bien, il y a même une arche comme Étretat derrière. Donc, vous voyez, vous êtes dans le faux, et ce machin est aux deux tiers faux. C'est comme un implant dentaire. C'est-à-dire que c'est du béton et de la caillasse sur le tiers supérieur. Donc, vous voyez, tout est faux là-dedans. Mais c'est le parc, aujourd'hui, en général, lorsqu'on interroge les Parisiens, c'est le parc qu'ils trouvent le plus naturel. Et les Parisiens trouvent que, ouais, ça a l'air vachement naturel, on est au contact de la nature. Et c'est là où on voit que le père Haussmann et ses ingénieurs ont bien travaillé, parce que les gens sont persuadés que c'est un truc hyper naturel, etc. En fait, rien n'est naturel, ni la pente, ni etc. Alors, c'est quoi le projet ? Parmi les particularités de ce parc, vous noterez aussi qu'il y a des allées absolument gigantesques. Il y en a partout, d'ailleurs, et qui ont presque toutes des formes d'œufs. Les Anglais, d'ailleurs, se moquent en général des jardiniers d'Haussmann, etc., en disant qu'ils font des œufs comme des poules, parce que vous avez toutes ces promenades qui font des boucles les unes sur les autres, etc. Alors, en plus, c'est hiérarchisé, comme les parcs en général. Vous avez une grande promenade périphérique, ensuite, vous avez des allées larges, des allées moins larges, et enfin, des petits chemins sinueux. Alors, pour comprendre ce dont il s'agit, pourquoi mettre un parc là ? Eh bien, c'est la naissance du discours moderne sur les espaces verts. C'est que Napoléon III est très convaincu qu'en fait, la verdure, ça pacifie. Et n'oubliez pas que le Second Empire, avant le Second Empire, il y a eu une série ininterrompue de révolutions, de coups d'État, etc. Donc, Napoléon est persuadé qu'il faut stabiliser la société et que pour stabiliser la société, la meilleure chose à faire, c'est de l'intégrer. Et on va trouver ce discours, finalement, les gens sont différents, mais ils sont au sein des mêmes réseaux. Et notamment à Paris, vous devez être de l'ouest bourgeois à l'est ouvrier et populaire et remuant, et etc., au sein d'une même maille continue de nature mise à la portée des citadins. Donc ça, c'est un des discours forts de cette affaire. Du coup, même si c'est aberrant a priori, on va mettre un parc dans l'endroit le plus pauvre de Paris, et on va même en faire une démonstration, si vous voulez, qu'on peut intégrer tout le monde dans cette maille verte avant la lettre. Donc ça, c'est une première idée très forte, et qui est finalement une idée qui quittera jamais le vocabulaire des réseaux. Je vous disais Facebook, le discours de Zuckerberg et autres, c'est quoi ? C'est dire, bon, ben, vous n'allez pas devenir riche parce que vous êtes sur Facebook, mais tout va mieux se passer parce que vous allez être connecté. Vous allez faire partie de cette même civilisation planétaire, ça va être formidable, vous allez être en dialogue les uns avec les autres, etc. C'est le discours de base sur les réseaux. Le réseau, ça intègre sans forcément uniformiser les conditions, les particularités, etc. Deuxième chose, c'est un jardin dans lequel, en fait, vous êtes censé vous promener sans cesse. Et ça, c'est un truc d'ingénieur. C'est comme un mini-système autoroutier. Et derrière ça, il y a l'idée que si vous vous promenez dans le jardin, ça vous pacifie l'âme, qui est un héritage, en fait, de la théorie des jardins du XVIIIe siècle. Je ne rentre pas dans les détails, mais on croyait beaucoup que se promener dans les jardins, c'était comme un espèce d'itinéraire moral. Pour comprendre ça, quand vous allez voir un bon film, des fois, vous sortez en ayant l'impression quand même que, bizarrement, vous êtes un peu meilleur, vous avez appris quelque chose, ou etc. Bon, ben, les jardins, c'était vu comme une espèce de cinéma ambulatoire dans laquelle la variété des scènes était censée vous apporter un réconfort, une sensation de plénitude morale, etc., etc. En faisant d'ailleurs des boucles. Qui est une... Alors, du coup... Et je ne suis pas le seul à avoir ce délire, parce que ça a été pas mal étudié par des historiens. On peut dire que la ville tout entière, par des ingénieurs d'Haussmann, est un peu dans le même modèle. L'une des raisons pour lesquelles ils n'aiment pas Manhattan, il y en a qui ont été à Manhattan chez vous, parmi vous. Bon, à Manhattan, grosso modo, on est constamment comme le piston d'une machine. C'est-à-dire, vous allez comme ça, comme ça, ou comme ça, comme ça, comme ça. À Paris, l'idéal haussmannien, c'est de faire des boucles molles, qui vous permettent de vous promener, etc., le long de ces avenues qui s'inclinent les unes sur les autres, et ainsi de suite. C'est ça l'espèce d'idéal où la ville devient une machine à civiliser. Et c'est ça avec pour but de produire à la fin, idéalement, le bourgeois parisien qui, comme chacun le sait, est la forme ultime de la civilisation. C'est ça un peu l'idée, désolé pour les provinciaux. D'ailleurs, bon, venant de Lyon, on va haussmanniser Lyon avec un peu des idées de ce genre, même si le bourgeois lyonnais ne peut pas être comparé au bourgeois parisien, c'est bien connu. Mais l'ingénieur dont j'ai parlé qui venait d'Étretat, là où on voit qu'en fait c'est une conception globale de la ville, c'est qu'en fait il va être chargé de trucs absolument clés dans le Paris haussmannien. Parmi les trucs clés qu'on a oubliés aujourd'hui, qui est le re-réglage complet de la place Charles de Gaulle, enfin place de l'Étoile à l'époque, qui était en fait une ancienne barrière qui avait jamais été qualifiée sérieusement, etc. Et en fait, ce gars qui s'appelle Darcel va être chargé de redessiner toute la place comme justement une espèce de moyeu autour duquel on fait ses promenades, etc. Et notamment avec cette avenue qui est un des grands axes. Alors là, on est à l'opposé. C'est plus le Paris des pauvres, c'est le Paris des riches. Et l'avenue Foch, sa justification, c'est de pouvoir aller en calèche depuis les beaux quartiers jusqu'au bois de Boulogne se promener. Parce que c'est un des rituels de la haute société du XIXe siècle que d'aller en calèche. Alors là où ça devient rigolo, c'est qu'au bout de Chaumont, vous avez aussi une voie pour aller en calèche, au cas où il y a quelques bourgeois échappés du côté de l'Est parisien. Il n'y a quasiment aucune chance. Mais vous voyez que finalement, ça participe d'un espèce de projet global sur la ville, qui est en fait un projet finalement de construction d'une civilisation urbaine. Alors du coup, certain nombre de conséquences de ça. Ça permet de comprendre pourquoi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du petit Paris des Balkans, etc. Bucarest s'est voulu pendant longtemps le petit Paris des Balkans. Les gens de Buenos Aires, volontiers, vous disent, il y a un côté parisien à Buenos Aires. Vous arrivez à Buenos Aires, ces immeubles font trois fois la hauteur des immeubles parisiens. Mais comme vous êtes poli, vous dites, oui, oui, sans aucun doute. Et puis des fois, il y a des trucs assez drôles. Par exemple, à Buenos Aires, je vois, il y avait un hôtel particulier, je me dis, j'ai déjà vu ce truc-là. Et en fait, c'était une copie conforme, mais à l'échelle 1,5 quand même, du musée Jacquemart-André de Paris. Donc ils avaient pris, etc. Ah, pourquoi ? Ça a marché. Parce que Paris, c'est pas la capitale. Bon, il y a un philosophe allemand, Walter Benjamin, qui va écrire un essai célèbre, Paris, capitale du 19e siècle. La vraie capitale du 19e siècle, c'est pas Paris, c'est Londres. Pourquoi ? Parce que l'Angleterre, le Royaume-Uni domine la planète de la tête et des épaules, et Londres est la plus grande ville occidentale, la plus développée, etc., etc. Mais Londres, d'une certaine façon, est inimitable. Vous ne pouvez pas imiter Londres, c'est comme essayer d'imiter finalement la plus grande ville du monde. Mais Paris, c'est la ville juste un cran en dessous dont vous pouvez vous emparer comme modèle et vous pouvez copier. Et du coup, le modèle parisien va s'exporter tout au long du 19e. Qu'est-ce qui va s'exporter? Cette idée, finalement, d'une civilité urbaine liée aux réseaux techniques, mais aussi aux plantations, etc. Du coup, vous allez voir des parcs para-haussmanniens. J'ai une collègue qui a étudié, par exemple, Belo Horizonte au Brésil, la capitale aujourd'hui du Minas Gerais. Il y a un parc haussmannien au milieu de Belo Horizonte, qui est une création de la seconde moitié du 19e siècle. Vous allez avoir des réverbères à la parisienne, vous allez avoir des arbres. Il y a même des endroits où on a mis des grilles autour des arbres pour faire parisien. Et vous vous rendez compte que, finalement, derrière ça, c'est pas seulement la technique qu'on veut copier, c'est l'idée d'un projet social qui passerait par la constitution d'une classe moyenne et supérieure bourgeoise, etc. Et c'est le grand rêve, par exemple, des pays d'Amérique latine au 19e siècle, c'est finalement de créer une espèce d'upper middle class bourgeoise qui stabiliserait là aussi le pays, les pays, etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, les réseaux, ils vont souvent de pair avec des modèles politiques. Prenez la Chine aujourd'hui et ses routes de la soie. Elle cherche pas seulement à exporter, etc. Elle cherche à exporter un certain nombre de convictions liées donc au régime chinois. Et je dirais, du coup, d'ailleurs, on comprend mieux les batailles qui peuvent y avoir autour de Huawei, etc. La question des réseaux, c'est une question d'influence politique. Et c'est vrai que Paris va être une vitrine de l'influence parisienne. Ça va d'ailleurs poser des problèmes à Paris. C'est que jusqu'à aujourd'hui, c'est très difficile à Paris de se débarrasser complètement du modèle haussmannien, parce que ça reste une espèce de modèle un peu indépassable d'urbanité, même s'il montre ses limites de tous les côtés. Et c'est vrai que repenser la nature autrement, c'est ce qu'essaye de faire Hidalgo, très clairement, avec ses forêts urbaines, etc. Mais c'est très difficile de rompre avec un modèle parisien qui est plutôt de la nature cantonnée, technicisée, etc. Et vous voyez, finalement, ces questions, c'est des questions assez profondes aujourd'hui. Du coup, c'est quoi la nature aujourd'hui dans les villes? C'est une question qui est posée par là l'haussmannisation, etc. Pour vous donner un autre exemple du rayonnement parisien, Olmsted, dont vous avez sans doute jamais entendu parler, Frederick Law Olmsted, c'est le créateur de Central Park, le plus grand paysagiste américain de la seconde moitié du 19e siècle, le père fondateur même de la profession de paysagiste aux États-Unis. Olmsted, avant de faire Central Park, il va visiter Paris. Et en fait, il y a des choses chez Olmsted qui doivent à l'exemple de Paris. Par exemple, Central Park est bourré d'infrastructures. Il y a des routes, il y a un réservoir, il y a etc. Et ça doit quelque chose à la méditation. Alors c'est une autre échelle, c'est un autre projet politique, etc. Mais ça doit quelque chose à l'exemple parisien. Donc voilà, bon, un exemple de ville en réseau. Alors je vais y revenir. Il est évident que si je vous parlais de Berlin ou si je vous parlais de Londres, etc., ça serait pas tout à fait la même histoire. Mais il y aurait toujours ce lien fort entre projet sur la ville et projet de réseau, et puis projet de réseau et projet politique. Et c'est ça, peut-être, qu'il faut retenir. Avec aussi, du coup, il y a des tropismes, c'est-à-dire que les ingénieurs français, pendant très longtemps, vont adorer les plats de spaghettis comme circulation et vont pas aimer les angles droits. C'est resté, du coup, la défense... Le système de circulation invraisemblablement compliqué sous la défense, ça doit quelque chose à cette idée-là. C'est un côté anti-Manhattan, si vous voulez. Alors, ce qui va m'amener, donc, finalement, à un peu au-delà de l'exemple parisien, quelques considérations plus générales sur ville et réseau. Parce que, bon, évidemment, c'est pas que Paris. Et en fait, l'anatomie des réseaux, ça permet souvent de comprendre des choses sur le développement urbain, au-delà des apparences. Alors les réseaux, bon, très clairement, j'ai pris le cas parisien, c'est peut-être le cas le plus emblématique. Je dirais jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur cas si vous voulez comprendre ce qu'a été progressivement l'arrivée des réseaux sur la scène urbaine au cours du 19e siècle. Mais évidemment, toutes les villes vont être impactées. Alors, pour rester 5 minutes dans Paris, ça va aussi changer la lecture des villes. C'est-à-dire, par exemple, et là, on fait un pas vers la ville intelligente, entre guillemets, les réseaux, on va commencer à se poser des questions de débit, de flux, de mesures, etc. Et du coup, la question de la quantification urbaine. Et si, finalement, une ville s'était saisie plus sûrement au travers d'un ensemble de données, de data, comme on dirait aujourd'hui, c'est pas encore le big data, mais c'est déjà quand même le relativement large data. Ça, c'est l'atlas des Bertillons. Ça, par exemple, c'est l'atlas de statistiques de Paris. Vous voyez, en fait, c'est les flux de entrants et sortants de Paris. Vous noterez une chose d'ailleurs qu'on ne réalise pas aujourd'hui, le poids énorme de la Seine par rapport au chemin de fer et le poids aussi énorme du chemin de fer de petite ceinture qui aujourd'hui paraît un aimable truc pittoresque où aller cueillir les champignons. Mais en fait, c'était une infrastructure vitale du Paris du 19e. Pourquoi ? Parce que ça connectait les réseaux ferroviaires, en fait. Et c'est ça le grand rôle du chemin de fer de petite ceinture. Alors, on ne comprend pas l'histoire urbaine. Par exemple, bon, Los Angeles, vous pensez tout de suite autoroute. Mais en fait, les autoroutes de Los Angeles, ils ont une histoire qui n'est pas du tout celle de l'autoroute au départ, c'est celle du tramway. La ville américaine de la fin du 19e siècle, elle s'étend à coup de poussées de lignes de tramway. Et en général, les promoteurs de lignes de tramway, ils payent le tramway et ils se remboursent en faisant de la promotion immobilière avec les quartiers que dessert le tramway. Et c'est comme ça que va s'opérer la croissance urbaine américaine. Et en fait, c'est le plan des tramways de Los Angeles et ça correspond à peu près au plan des freeways aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que lorsque Los Angeles va se convertir à la voiture, eh ben on va sacrifier les anciennes emprises de tramway et construire des autoroutes dessus. Et par exemple, l'autoroute qui va vers Long Beach, à partir du downtown de Los Angeles, ben c'est l'ancien tramway de Long Beach. Et pareil pour celui-là qui suit le Wilshire Boulevard, etc. Donc vous voyez, en fait, il y a des trajectoires urbaines qu'on ne comprend pas si on ne prend pas en compte l'histoire des réseaux et de leur constitution. Dans le cas de Paris, par exemple, il y a un truc, le voyageur américain qui arrive à Roissy et qui entend des messages subtils du genre « l'interconnexion n'est pas assurée », etc., sur le RER B, s'il ne sait pas que le RER, qui paraît un truc normal, est en fait l'accouplement monstrueux de la RATP et de la SNCF, avec tous les problèmes qu'on connaît, il ne peut pas comprendre. Et d'ailleurs, souvent, il ne comprend pas pourquoi, des fois, il faut monter à Gare du Nord pour prendre le RER pour aller vers Roissy, par exemple, aussi. C'est plein de mystères. En fait, vous vous rendez compte, l'histoire des réseaux, l'histoire des villes, c'est très profondément lié. C'est aussi l'histoire de la politique des villes. L'une des raisons pour lesquelles vous avez ce système hybride à Paris, c'est qu'en fait, le métro, une des décisions politiques, vous avez tous entendu parler de ça, à Paris, on a décidé de ne pas avoir un métro qui était périurbain. Donc le métro s'arrêtait quasiment aux portes de Paris, porte d'Orléans, porte de Clignancourt, porte des Lilas, etc. C'était une décision très différente du métro de Londres, qui est un métro beaucoup plus moins dense et axé vers les banlieues. Londres était plus grand à l'époque, etc. Et ça explique le bricolage du RER à partir des années 60-70 pour le constituer. Alors il y a d'autres histoires plus subtiles. Par exemple, l'histoire de l'électrification des villes. C'est des histoires compliquées. Un historien américain qui s'appelle Thomas Hughes a fait un bouquin qui s'appelle Networks of Power, qui est un classique de l'histoire des technologies urbaines, où il a étudié en fait l'électrification à Chicago, à Berlin et à Londres. Et en fait, il montre comment vous avez trois trajectoires qui ne sont pas complètement surprenantes quand vous connaissez les villes, etc., mais qui sont très emblématiques de type de conception du rapport public-privé. À Chicago, c'est très efficace. Mais c'est purement privé. Du coup, Chicago a le meilleur système de tarification électrique où on paye avec un espèce de pricing très sophistiqué, très moderne pour l'époque, etc. Berlin, alors eux, c'est l'infrastructure qui est vachement bien parce qu'en fait, ils fonctionnent dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un partenariat public-privé avec des grandes entreprises électriques comme l'AEG, etc., qui collaborent avec la puissance publique. Du coup, Berlin va rationaliser très bien sa production d'électricité. Ça, c'est la principale centrale d'électricité de Berlin au début du XXe siècle, la centrale de Moabit. Et en fait, système très rationnel du point de vue de l'ingénierie, etc. Et puis Londres, c'est le bordel. Parce que Londres, en fait, vous avez... Alors, ne n'y voyez aucun parallèle avec l'actualité. Il y a un statut de... Il y a un syndicat des gaziers à Londres qui va s'opposer pendant très longtemps à l'électrification de Londres. Du coup, l'électrification de Londres va se faire par petits morceaux et dans la pagaille la plus totale. Et ce qui fait qu'au tournant du 19e et du 20e, Londres est la ville la plus archaïque d'un point de vue électricité, alors que c'était avant la ville la plus moderne au début du 20e siècle. Alors, de ça... Hughes avait tiré l'idée de style technologique, c'est-à-dire il se pourrait que finalement, dans des circonstances particulières, des cultures locales, etc., crée des cultures technologiques particulières. Les Français, par exemple, aiment bien les grands réseaux monumentaux, ça leur plaît, ça fait Versailles, etc. Il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles, par exemple, même au niveau de la voirie. Bon, l'idée de continuer l'axe des Champs-Élysées jusqu'à la Défense, c'est un truc qui n'est pas très britannique. Même à Londres, la voie la plus régulière qui est Regent Street. À Londres, je ne sais pas si vous avez remarqué, même Regent Street arrive à pas être en ligne droite de Regent's Park à Piccadilly. Donc c'est assez typique, alors que les Français, on aime ça. On aime la régularité comme ça, etc. Donc il y a des styles technologiques. Et soit dit en passant, très souvent, qu'est-ce que serait Paris pendant plusieurs décennies va être symbolisé au moins autant par les entrées de métro Guimard que par la Tour Eiffel. Pensez au rôle des sigles de Londres, par exemple, le métro de Londres est un métro génial en termes de communication graphique. Les signes du métro de Londres, le plan du métro de Londres, tout ça, c'est, dans les années 30, un truc incroyablement moderne, et ça participe de l'identité londonienne, etc. Donc il y a des villes dans lesquelles le style technologique, il s'incarne même physiquement, etc. Ça va jusqu'à présent ? Bien ! Alors on va passer à cette histoire de ville intelligente. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Alors la ville intelligente, ça s'est développé, grosso modo, il y a une quinzaine d'années. À peu près 15-20 ans, un peu moins de 20 ans. Et puis c'est devenu un espèce de terme attrape-tout, etc. Alors de quoi il s'agissait ? En fait, c'est une continuation de la ville des réseaux. C'est d'une certaine façon l'idée quand même qu'on n'arrivait plus à gérer les villes, c'était devenu trop compliqué, les réseaux dysfonctionnaient, etc., mais pas seulement. Et que donc, du coup, on a utilisé le numérique pour mieux gérer les infrastructures, pour etc., etc. Alors ça, c'est en fait au départ un truc assez marketing des majors du numérique, comme IBM, Cisco, etc. Et IBM, notamment, développe l'idée smart, c'est en partie IBM qui invente ça, avec l'idée, finalement, d'une ville plus efficace, parce qu'on va utiliser le numérique, on va mieux gérer, etc. Il y aura des plateformes, il y aura des capteurs aussi, etc. Alors, le truc le plus étonnant dans cette affaire, c'est que ça va avoir plus de succès que prévu. Et là, sur cette idée originelle qui est finalement de rendre la ville plus efficace au moyen du numérique, vont se greffer des attentes démocratiques. On va mieux relier la population à ses admis, finalement aux politiques et aux services techniques. On va dialoguer entre citoyens, etc., etc. Alors là-dessus, la mayonnaise va prendre d'abord les maires. Ils vont commencer à être intéressés parce que les maires, on leur promet un truc qui en plus fait ronflant. C'est bon pour les public relations, smart. Donc les maires vont commencer. En France, par exemple, Estrosi à Nice va s'emparer de smart, va faire des partenariats ronflants avec IBM, etc. Parce que c'est bon pour l'électorat. Mais le plus étonnant, c'est que derrière ça, la mayonnaise va prendre, pas seulement à cause des maires, mais à cause de deux trucs que personne n'avait complètement vu au départ. Premier truc, ce machin-là, qui n'était pas, il y a encore 10-15 ans, souvenez-vous, c'était un machin plutôt élitiste, etc., BlackBerry de cadre, versus, etc. En 10 ans, 15 ans, ces machins-là se sont complètement démocratisés. Aujourd'hui, vous avez une ville équipée de citoyens connectés. Donc, des citoyens connectés, du coup, tout un rapport nouveau entre les grands systèmes urbains, le citoyen qu'on peut joindre, qui peut se connecter, etc. Et puis, le deuxième truc, c'est évidemment les datas. C'est qu'en fait, le citoyen et les villes, c'est des producteurs de ce qu'on présente parfois, en exagérant d'ailleurs, comme l'or noir du 21e siècle, qui est les données. Et derrière ça, il y a un autre truc qui vient se joindre à ça, c'est le Web 2.0, avec Amazon, etc., etc. Donc du coup, la ville devient un endroit où vous avez des citoyens connectés, une prolifération de données produites par des opérateurs publics, mais aussi par des opérateurs privés, Amazon, Orange, etc., etc. Et du coup, ça va complètement reformer la question. Alors du coup, la ville connectée, on va se dire effectivement un côté infrastructurel, mais aussi un volet. Alors par exemple, à Nice, il y avait ces projets d'expérimentation de boulevards connectés. Autre idée aussi, on va créer des synergies. Par exemple, on va coupler l'éclairage et les questions, finalement, de prévision météo, ou le ramassage des ordures, et les problèmes de chaussées. Enfin, des tas de trucs comme ça, on va essayer de coupler les choses pour avoir de meilleures synergies. On va aussi se servir de la relation aux citoyens avec des applications. Par exemple, vous allez pouvoir signaler qu'il y a un gros nid de poule dans votre rue à l'administration municipale. Donc toutes ces idées font un peu boule de neige. Et derrière ça, évidemment, il y a un truc encore une fois central, c'est la place des usagers et le côté absolument central, finalement, de ces humains équipés. Et aujourd'hui, le taux de pénétration des smartphones, c'est pas uniquement les pays développés, c'est aussi les pays en voie de développement, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Vous avez aujourd'hui en Afrique couramment des paysans qui utilisent des smartphones pour savoir quel est le meilleur marché pour vendre et écouler leur production dans la métropole toute proche. Donc ça transforme complètement, vous en trouvez dans les bidonvilles, etc., ça transforme complètement tout le métabolisme urbain. Alors, la Smart City, c'est quoi, finalement? Alors, la Smart City, à partir d'un certain moment, alors je vais pas rentrer dans les détails, ça va aussi engrainer sur l'idée que la ville verte, la ville résiliente, c'est bien de se servir du numérique pour ça. Alors, aujourd'hui, vous avez une tendance, à nouveau, à une déconnexion partielle, parce qu'on se rend compte qu'en fait, le numérique va pas résoudre les problèmes de température de la planète. Loin s'en faut. Et donc, ça redevient un peu plus autonome l'un par rapport à l'autre. Mais autour, je dirais, des années 2015, c'est-à-dire il y a 4-5 ans, la Smart City, c'était la ville à la fois plus citoyenne, plus efficace, plus verte, enfin, c'était franchement le paradis. Alors, c'était parfois des réalisations expérimentales, comme la ville de Songdo, sur la côte coréenne, à une trentaine de kilomètres de Séoul, où d'ailleurs on oubliait au passage que Songdo, c'est qu'une partie d'un projet gigantesque de redéveloppement de la côte de Séoul. Derrière ça, qu'est-ce qu'il y a, en fait? Une espèce de bagarre qui commence à se profiler entre les géants de la côte chinoise et coréenne, Pékin au nord, Séoul en face, Shanghai, évidemment Hong Kong. Alors Hong Kong est partiellement hors-jeu actuellement, mais chacun essaye de s'armer en vue de cette compétition. Donc Songdo, c'était parti de ça. Alors, autre quartier smart dont on a beaucoup parlé à un moment, c'est Hudson Yards, qui est le plus gros développement américain, à Manhattan de ces dernières années, qui est très cité connectée, etc. Mais en fait, la ville intelligente, c'est pas ça. La ville intelligente, c'est à peu près toutes les villes aujourd'hui ont des stratégies ville intelligente. Alors, ça passe par quoi? Ça passe par un équipement systématique en capteur de l'infrastructure. Ça passe par une gestion en utilisant les outils numériques. Ça passe aussi par des applications pour mettre en contact l'administration et les administrés. Ça va passer par des politiques de start-up. Ça va aussi passer partout dans le monde par la question, les données. On parle beaucoup d'open data. C'est quoi la politique des données des villes? Vous avez des villes qui ont, par exemple, créé des administrations centralisées de la donnée, comme Rennes ou Montpellier, pour gérer finalement, que l'administration municipale soit un peu l'arbitre de la circulation des données à l'échelle des métropoles. Puis vous avez d'autres villes qui ont fait d'autres choix, etc. Mais en tout cas, c'est une dimension absolument incontournable de ce qui se passe aujourd'hui. Mais encore une fois, la ville, la Smart City, c'est pas tous ces trucs. C'est la ville dans laquelle on vit tous les jours. À peu près toutes les grandes métropoles ont une stratégie Smart City. Si vous voulez, Saint-Honoré-les-Gourjus, 37 habitants dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est un peu difficile d'avoir une Smart City Saint-Honoré-les-Gourjus avec 37 habitants. Mais à peu près toutes les villes moyennes aujourd'hui ont des stratégies de ce genre. Et ça va bien au-delà, là aussi, des pays développés. L'Inde a des stratégies Smart City, l'Afrique à peu près systématiquement. Il y a d'ailleurs beaucoup d'expérimentations en Afrique intéressantes, l'Amérique du Sud, Medellin, par exemple, etc. Alors, avec des fantasmes qui correspondent à deux modèles un peu entre lesquels les 9/10 des trucs se décident. Premier fantasme, celui de la ville SimCity. Il y en a encore qui ont joué à SimCity parmi vous? Bon, ouais, ça se fait encore. Bon, ben, vous êtes le maire et vous jouez à SimCity. Du coup, vous avez un PC opérationnel, etc. C'est super. Faites varier les paramètres. Ça, c'est le rêve. Alors, ne pas sous-estimer une chose. Ce modèle, alors, c'était ce qu'avait vendu IBM à la ville de Rio. En fait, ça s'est jamais passé comme ça, parce que c'est un modèle, en fait, qui est très puissant actuellement en Asie. Pourquoi? Parce qu'en Asie, en Chine ou Dieu sait quoi, le côté vertical top-down, ça marche très bien. Et Alibaba, par exemple, le géant du numérique chinois, est en train de développer un projet qui s'appelle City Brain, qui est tout à fait top-down. On joue à SimCity. Simplement, c'est le Parti communiste qui joue à SimCity. Et en fait, les projets de reconnaissance faciale, etc., et de crédit social, ça participe de ça, évidemment. Et à Singapour, un peu le même modèle. Et puis vous avez des modèles plus européens, etc., dans lesquels on fait du top-down, mais on fait aussi du bottom-up participatif. Alors bon, c'est une longue histoire, hein, cette idée de top-down. Ça, c'est un projet des années 60 de PC de planning pour Los Angeles. Et vous voyez, c'est à l'époque qu'on utilise la cybernétique pour les villes. C'est le grand ancêtre de la ville intelligente il y a très longtemps. Vous voyez, avec des PC opérationnels, etc. Bon, vous avez le modèle bottom-up, dans lequel smart, c'est les gens qui sont smart, ils s'allient ensemble, ils font du Wikipédia, de l'OpenStreetMap, enfin des trucs vachement sympas et participatifs. Collaboration, collaboration, collaboration. Ça, c'est une OpenStreetMap party en Amérique centrale. Et c'est un autre modèle. Clairement, les pays occidentaux aujourd'hui sont plutôt comment on va essayer de concilier les deux, ce qui n'est pas simple. Mais comment on va faire? Bon, parce que c'est vrai qu'un métro automatique en participatif, c'est pas top. Bon. Mais par contre, il y a des choses qui sont parfois mieux. Ben, prenez OpenStreetMap, qui est assez bonne en cartographie jusqu'à un certain degré de précision. Hein. Ils font pas de la géodésie. Mais, par exemple, après Fukushima, les OpenStreetMappers japonais ont refait extrêmement rapidement le plan de Fukushima après le tsunami, etc. Donc vous avez une espèce d'assez grande réactivité, de résilience, etc. Donc comment vous combinez les deux? C'est plutôt la question occidentale aujourd'hui, et dans quelles proportions, etc. Il y a des villes, par exemple Nice était plus top-down. Bon, il faut dire Marseille aussi, parce que Marseille a de tels problèmes de sécurité que ce qu'on vend le mieux aux Marseillais riches, c'est l'idée qu'on fait du top-down sécuritaire. Puis vous avez Paris qui essaye de vendre un mélange des deux, etc. Avec d'ailleurs bon, un autre exemple à Rio, c'est l'Amérique du Sud est plutôt en pointe sur les aspects un peu participatifs, etc. Alors derrière ça, ce qu'il faut dire, c'est finalement une ville des réseaux, je dirais, démultipliés. Comme si finalement, ça c'est juste for the fun. C'est une image que j'aime bien parce que c'est le genre de truc qu'on est capable de produire très facilement aujourd'hui. C'est même vieux maintenant, ça. C'était la carte des photos postées de Manhattan postées sur Flickr. Et avec, en fait, en bleu, c'est les locaux et en rouge, c'est les touristes. Et en jaune, ne sait pas. En fait, on voit comme on pouvait s'y attendre. Il y a beaucoup de touristes ici, il y a beaucoup de touristes ici. Et ici, c'est que des locaux en dessous de Midtown. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si la ville était démultipliée, intensifiée par le numérique, ce qui correspond à votre pratique de la ville. Là aussi, quand vous vous baladez dans une ville, à la fois sur votre écran et dans la ville, c'est comme si la ville se démultipliait et s'étendait dans le monde numérique. Alors, en même temps, et c'est là où je vais apporter un bémol, la civilisation numérique tend à ébranler un peu le modèle du réseau. Pourquoi? Parce que prenez Haussmann, le réseau des rues, etc. Aujourd'hui, vous en foutez d'être dans un réseau de rues. Parce que vous avez le petit point bleu qui vous dit, moi qui n'ai aucun sens de l'orientation, par exemple à Manhattan, je mets le petit point bleu, je vais vers la droite, je regarde où c'est sur la carte, puis à gauche, et puis je sais ensuite où je vais. C'est aussi bête que ça. Donc en fait, la pensée du réseau, aujourd'hui, si vous utilisez un GPS, votre téléphone, par exemple, vous mettez Google Maps ou Dieu sait quoi, ben, vous en foutez de savoir si vous êtes dans un réseau ou pas. Et en fait, vous retombez dans une logique d'itinéraire quasiment pré-18e siècle. Tournez à droite, dans 200 mètres, tournez à gauche. Et puis, c'est pas important de savoir que ça appartient à tel réseau, tel autre, etc. Vous vous rendez compte qu'en fait, le numérique ébranle un peu ce mode de lisibilité du monde en termes de réseau qu'on a connu pendant très longtemps. Est-ce que je suis clair là-dessus? Et votre vision du monde, c'est plutôt de plus en plus une vision en termes d'itinéraire. C'est-à-dire, c'est pas tellement important d'avoir la carte générale du réseau. Ce qui est important, c'est de savoir où vous naviguez, est-ce que vous tournez à droite, à gauche, etc. Plus globalement, bon, je vais terminer là-dessus et on va discuter un peu plus avant ces questions de réseau. Ce qui est clair, c'est que la ville intelligente, ça débouche sur plein de choses. Qu'est-ce que c'est qu'une ville dans laquelle, finalement, encore une fois, alors ça, c'est complètement dépassé maintenant, c'est à l'époque où il y avait des cabines téléphoniques. Manhattan s'est dit, qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai plus mes cabines téléphoniques? Je mets quoi à la place? La réponse, dans un premier temps, ça a été, on va mettre des bornes comme ça, pour permettre aux gens de recharger leur smartphone, etc. Et puis, on va faire un peu d'affichage publicitaire et de trucs, enfin, vous voyez, genre de co, quoi. D'ailleurs, Decaux, c'est une de ses grandes questions aujourd'hui. C'est comment on couple l'abribus et le numérique. Decaux a une stratégie numérique. Alors, ça n'a pas du tout marché pour une raison simple, c'est qu'il y a eu un nombre de fauches, de téléphones, d'agressions sexuelles, etc., absolument monstrueuses autour de ces bornes, et on a vite arrêté. Mais, vous voyez, la ville réelle, des fois... Mais en tout cas, bon, ces questions de transformation de l'expérience urbaine et de la ville, elles sont très présentes aujourd'hui. Et puis, dernier point, un peu science-fiction, mais vous avez déjà eu plusieurs cours. Ça va être quoi de vivre avec des algorithmes, des robots, des toutes sortes de créatures un peu artificielles qui sont pas encore très fut-fut, mais qui quand même progressent. Comme je le dis souvent, pour moi, un tipping point, ça a été le jour où Word, Microsoft Word est devenu meilleur en grammaire que vous. Là, j'ai eu vraiment un choc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parce que j'ai connu Microsoft Word, qui était vraiment d'une nullité en grammaire, et aujourd'hui, c'est vrai qu'en moyenne, Microsoft Word est un peu meilleur en conjugaison et en grammaire que vous. Donc il y a quelque chose à méditer. Bien, c'est le dernier moment de ce cours, triomphe et crise des réseaux, parce que c'est un peu là où on en est. D'un côté, on n'a jamais autant utilisé la figure du réseau. De l'autre côté, on commence à avoir des doutes pour différentes raisons, et ces doutes ne sont pas non plus inintéressants à passer en revue. La première chose... Les réseaux ne sont pas morts, et les réseaux physiques non plus. Dans les années 90, vous aviez quelqu'un qui s'appelait William Mitchell, qui était un des gourous de l'Internet appliqué aux villes, qui avait fait un bouquin qui s'appelait « City of Bits », dans lequel il prédisait que très vite, la ville allait devenir paisible, verte, etc., parce qu'au lieu de se voir, on échangerait des messages sur l'Internet. Alors, pendant une bonne vingtaine d'années, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que les circulations physiques ont augmenté, et c'est que très récemment en région parisienne que la mobilité a commencé à décroître. Mais elle commence à décroître. Mais quand même, prenez Amazon, si je commande un paquet sur Amazon, il faut bien qu'il arrive. D'où d'ailleurs la relation d'amour-haine entre Amazon et la Poste. Et ça, c'est un problème partout dans le monde. Amazon et la Poste, c'est un peu compliqué, parce que les circulations physiques n'ont pas disparu, loin s'en faut. Alors, les réseaux ont en même temps des problèmes. C'est-à-dire que très clairement, le Paris d'Haussmann, on voudrait le refaire aujourd'hui, eh ben, on n'aurait ni les structures politiques. C'est-à-dire, imaginez Haussmann qui dit, bon, les gars, on va démolir. Alors, il n'a pas démoli tant que ça, mais il a bien démoli 10% ou 15% de Paris. Donc, imaginez un gars qui dit, bon, non, pas plus que ça, en fait. Non, non, pas tellement plus. C'est très astucieux, Haussmann. C'est une espèce de bricolage extrêmement convaincant. Il a surtout étendu Paris. Mais, bon, il a fait des dégâts massifs dans l'île de la Cité et dans le quartier latin, mais ça, pour d'autres raisons. Mais aujourd'hui, politiquement, c'est quasiment impossible à faire. Vous avez tout de suite 12 associations, 10 machins, etc. Ça participe un peu de ce dont j'avais parlé à propos de l'ingénieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez avec un magnifique plan technique et vous avez tous les gens qui disent « ça va pas et quoi », etc. Ce qu'on appelle parfois le syndrome... NIB, not in my backyard. Merci de ne pas passer par mon jardin, etc., qui est devenu quand même un truc extrêmement fort, et merci de ne pas passer par mon quartier, etc. Deuxième problème, bah, les réseaux vieillissent. On ne sait pas comment financer, même simplement leur entretien, etc. Bon, pour vous donner une idée, les pertes d'eau sont quand même assez colossales dans les réseaux constitués. J'avais pris quelques chiffres. Par exemple, il y avait à un moment, il y a quelques années, il y avait 41% de perte d'eau dans le réseau Nîmois. Ça s'est un peu amélioré depuis, mais enfin, ça vous donne une idée quand même des problèmes. Les réseaux vieillissent, les réseaux ont des limites, etc. Autre problème, problème typique des réseaux qui s'étendent, ça amplifie les effets catastrophiques. Par exemple, ça conduit, prenez la voirie, ça imperméabilise. On sait aujourd'hui que l'imperméabilisation, ça conduit à des catastrophes en tout genre, inondations, etc. Les égouts conduisent aussi à des catastrophes liées à la très grande taille des systèmes. Et du coup, c'est souvent à la périphérie que se produisent des gros problèmes. À Paris, par exemple, on a tué 2-3 fois les poissons de la Seine au moment des orages, avec le déversement des égouts dans la Seine, et on a résolu le problème que très progressivement. Donc, vous rendez compte qu'en fait, les réseaux, c'est pas la panacée. On n'a pas souvent maintenant aujourd'hui ce que les Américains appellent l'agency, l'agentivité, comme on traduit barbarement en français, c'est-à-dire les moyens finalement de forcer la décision sur ces questions-là. On n'a pas souvent les ressources. Il n'y a que les Chinois aujourd'hui qui peuvent construire des métros à la taille de Shanghai en quelques années seulement. Prenez le Grand Paris, on en est à reculer. Et encore, le Grand Paris est tout à fait pharaonique. Alors on fait encore des choses pharaoniques. À Londres, par exemple, il y a un réseau de connexion du chemin de fer en souterrain qui est un truc absolument pharaonique. Mais on se pose des questions et on ne peut pas toujours le faire. À Londres, on y arrive parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent à Londres, mais on n'y arrive pas toujours. Donc il y a des limites techniques, puis il y a des limites environnementales. Et on se pose la question, est-ce que les grands réseaux intégrés, c'est la solution pour des villes qui aujourd'hui sont devenues des régions entières? Houston, autant que je me souvienne, la superficie de Houston, c'est la superficie de la Hollande. Alors pas l'ensemble des Pays-Bas, mais la Hollande. C'est quand même un bout non négligeable des Pays-Bas. Et vous vous rendez compte qu'en fait, les villes sont devenues des régions, et est-ce que les réseaux, etc. Le numérique, comme je l'ai dit, a tendance à aussi nous ramener vers des logiques d'itinéraire, etc. Dernier point, vous avez aussi de nouvelles façons d'organiser les déplacements. Alors ça, c'est un truc qui a fait faillite. C'était une société de bus à Boston, mais assez typique de nouvelles idées. Par exemple, toutes les start-up aujourd'hui qui veulent faire du data mining pour faire circuler des véhicules. Au lieu d'avoir des lignes fixes, de voir des trucs déterminés par du data mining, de la demande. C'est-à-dire, vous prenez du data mining qui vous dit où, grosso modo, va être la demande. Et ensuite, vous avez des applications qui vous permettent, si vous avez trop bu le soir, de rentrer avec une bagnole, enfin, du genre des Uber, Lyft, et puis des trucs de plus en plus collectifs, etc. Donc, on sent bien que ça bouge du côté des mobilités. Et pas forcément dans les formes réseau traditionnelles. Et puis, vous avez cette espèce d'éclectisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'urbain, et de plus en plus, c'est d'ailleurs un casse-tête, hein, parce que moi, je vois ma génération, je suis un homo sovieticus. C'est-à-dire, moi, de mon temps, se déplacer à Paris, c'était un truc simple, il n'y avait pas de vélo, c'était bus ou métro. Enfin, à l'âge que j'avais, à votre âge. Et bus, c'était quand j'étais follement amoureux, que j'avais toute l'après-midi pour sécher les cours de l'école des ponts. Et métro, c'est quand il fallait que je sois à l'heure au cours. Donc, bon, grosso modo, c'était ça le choix. Et parce qu'en plus, on ne savait pas quand il allait arriver. Aujourd'hui, prenez votre téléphone portable, vous êtes capable de combiner un peu de vélo, du métro, et vous allez de plus en plus faire ça. Combiner des mobilités hétérogènes, etc. Là aussi, la forme réseau traditionnelle, alors que vous êtes face à des segments qui se démultiplient, est-ce que c'est la façon la plus appropriée de penser l'avenir de l'infrastructure technique? C'est une vraie question. Alors, autre chose qui met en cause un peu la forme réseau, c'est le fantasme de la déconnexion. Vous savez que les éco-quartiers, ça c'est BZ à Londres, c'est un des premiers immeubles bas carbone avant qu'on se gèle dans le caco. Oui. Enfin, encore aujourd'hui, cet après-midi, je ne sais pas si vous avez noté, il fait chaud. Parce que le caco du matin, je ne vous décris pas, 8h30 en caco, il y a intérêt, c'est pour ça que j'ai ma grosse veste de tweed. Bon, même moi, même en m'agitant, j'arrive à avoir froid. Donc, plus sérieusement, qu'est-ce qui se joue derrière ça? L'idée, finalement, que la déconnexion, c'est non seulement chic et choc, mais c'est ce qu'il faut viser. Et du coup, l'imaginaire de la ville connectée, hyper connectée avec le numérique, est contemporain, on n'est pas jamais à une contradiction près, d'un imaginaire de la déconnexion. Ça ne passe pas d'ailleurs deux mois sans qu'il y ait un journaliste qui écrive un livre du genre « Ma vie sans Internet ». En général, avec publicité sur Internet. Mais ceci est un autre détail. Ou du genre, bon, et vous savez les gars, j'ai pas ouvert mon téléphone portable de toute la matinée. J'ai envoyé aucun SMS pendant le cours de Monsieur Picon. Super. Vachement bien. Bon. Du coup, vous avez des gens aussi qui se disent, finalement, l'avenir de la ville, c'est éclater complètement les solidarités. Au lieu d'avoir ces solidarités à l'échelle des métropoles, des grands réseaux, des trucs plus locaux. Vous avez par exemple un quartier, un éco-quartier de Stockholm qui a fait un peu modèle, qu'on appelle Hammarby, dans lequel, grosso modo, je recycle tes déchets, tu m'envoies d'autres trucs, etc. Donc tout un système de solidarité locale. Alors vous rajoutez là-dessus l'agriculture urbaine, etc. Et vous voyez le genre de tableau. Bon. Derrière ça, ben, ça pose quand même des problèmes, parce que la ville, traditionnellement, c'est quelque chose dans lequel on avait essayé progressivement d'intégrer des choses hétérogènes. Qu'est-ce qui se passe si la ville se désintègre en sous-quartiers? Soit dit en passant, d'ailleurs, ces idées-là font florès dans pas mal de pays en développement, parce que vous avez beaucoup d'endroits où concrètement, il faut avoir un groupe électrogène vu parce que le réseau est trop instable. Donc, vous vous rendez compte que ça peut effectivement séduire dans des pays en développement. Mais en tout cas, bon, derrière ça, autre aspect un peu bizarre dans le monde qui nous entoure, eh ben, c'est les effets tunnels. C'est-à-dire, vous savez, par exemple, la Bourse de Paris est plus proche de Wall Street que de la Seine-Saint-Denis. Et en fait, l'économie... Bah, si vous voulez, prenez même l'École des Ponts. L'École des Ponts, vous êtes au fond plus connecté à Palaiseau en termes de gens que vous connaissez, etc., à Saclay, que à de l'autre côté de l'autoroute. Où, en général, vous ne connaissez pas grand monde. Enfin, à moins que vous ayez tout d'un coup décidé de sociabiliser à grande échelle. Mais grosso modo, vous êtes comme une colonie de cette espèce de système des grandes écoles, parisiens, sud, etc. Et en fait, le numérique renforce ces effets-là. Et là aussi, contribue à une certaine forme de désintégration des solidarités traditionnelles. Deux géographes anglais, Graham et Marvin, ont fait un bouquin qui a fait pas mal date en son temps, qui s'appelait « Splintering Urbanism ». Splinter, c'est fendre. C'est donc un urbanisme de la dissociation au lieu d'un urbanisme de l'articulation des différences. Et vous voyez, bon, il y a beaucoup de choses. Grosso modo, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Eh ben, les villes vont là où elles vont, mais on ne sait pas bien. Et je pense que c'est ça qui rend le domaine finalement assez passionnant aujourd'hui. Alors, j'aurais pu vous faire un cours. Si j'avais continué dans ce cours, j'aurais peut-être fait un jour un cours sur la ville résiliente, parce que c'est aussi une autre carrière de choses sur lesquelles on peut s'interroger beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui à l'interface des villes, des technologies et des questions sociales et politiques. Il y a énormément, c'est un énorme chantier pour les décennies qui viennent, parce qu'il va falloir s'interroger très sérieusement sur le devenir de nos villes. Et c'est un peu là-dessus, si vous voulez, que je voudrais... avec, bon, aussi, d'autres mutations dont je n'ai pas parlé, qui est qu'aujourd'hui, dans les villes, vous savez, traditionnellement, les réseaux, on raisonnait en termes de flux. Aujourd'hui, le big data, vous raisonnez en termes quasiment de particules. Vous êtes, par exemple, capable de savoir où sont des millions de choses, des millions d'êtres, etc., dans une ville en temps réel. Du coup, ça a tendance à créer le petit point bleu, par exemple, à chaque fois, ça va se mettre quelque part dans un fichier de données, etc. Du coup, alors ça, c'est une idée un peu sophistiquée, donc vous ne vous sentez pas obligé de la comprendre, hein, parce que moi-même, j'ai de la peine à la comprendre des fois, mais je réfléchis dessus déjà depuis au moins 2-3 ans. Une autre idée que j'ai liée à ça, c'est finalement, et si la ville d'un système de flux traditionnel, réseau et flux, devenait un système de micro-événements ? Du genre « je suis ici à tel moment », etc. Ou du genre « aujourd'hui, là aussi, il y a quelques années, vous saviez jamais quand le RER va arriver ». Par exemple, moi qui suis plein d'espoir, j'ai toujours l'espoir que finissant à l'heure, j'attrape le 15h51 pour Paris, si j'y arrive, le RER A. En fait, vous avez ces trucs-là, là aussi, espèce de système d'événements. Ça va vers quoi, ça ? Ça va vers le fait que le numérique vous permet de raisonner plutôt qu'en termes de flux agrégés, en termes de nuages de choses qui se passent, ok ? Et à partir de ça, de fabriquer des représentations de ce qui se passe de plus en plus en temps réel. Par exemple, ça ne vous surprend pas, mais moi, ça me surprend encore parce que je suis plus vieux, de savoir qu'on peut connaître l'état de la circulation sur une métropole, mais aussi sur un pays tout entier, en temps quasiment réel, etc. De là, alors, ça a un effet assez bizarre, et je vous rassure, j'arrive presque à la fin de ce long exposé. Ça a un effet très bizarre, qui est le couplage entre le fait qu'on sache de plus en plus de choses sur ce qui se passe à chaque moment, en des tas de points des villes, et le développement formidable de la simulation numérique. Avec aussi, du coup, une espèce d'indissociabilité entre les deux. Je crois que je vous l'avais dit à propos du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, si vous laissez de côté Trump, ou etc. C'est quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers de points sur la planète où on connaît les températures, en temps réel, etc. Et un mélange de simulations informatiques On fait mouliner des modèles, etc., en ingérant le plus en plus de données. Et on vous dit en 2100, oulala, alors je vous préviens tout de suite, vos enfants vont avoir très chaud. Ça, c'est les vôtres, hein, pas les miens. Les miens auront chaud, mais moins. Et en fait, vous vous rendez compte que dans le monde dans lequel nous vivons, on est dans un monde dans lequel espèce d'occurrence, d'événements élémentaires, par exemple, en Alaska, on a repéré cette température inouïe de 18 degrés au mois de février. Eh bien, ça rentre dans un monde dans lequel, entre réalité et simulation, ça devient complètement, comme on dit en anglais, seamless, c'est-à-dire on glisse continuellement de l'un à l'autre. Et en fait, le monde dans lequel nous vivons tous, c'est un monde comme ça. Du coup, en matière urbaine, vous avez le même phénomène qui tend à se passer. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus, ça c'était un logiciel il y a quelques années pour jouer à SimCity, pour tester par exemple, en cas de tremblement de terre, comment réagit votre système de santé. Et c'est très SimCity. Mais aujourd'hui, les outils de simulation urbaine, il y a d'ailleurs un master d'urbanisme qui s'est développé autour de ces questions à l'École des Ponts, se sophistique à très grande vitesse, et du coup, entre ce qui est constaté, ce qui est simulé, etc., il y a un continuum. Du coup, avec une ville qui devient de plus en plus pensable comme scénario. Je dis souvent, Londres, c'est une des premières villes dans lesquelles, plutôt que de la planification traditionnelle, c'est du scénario. Londres, c'est écrit un scénario, Londres égale ville quintessentiellement européenne, plus le Shanghai de l'Europe, d'où les tours, etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, la nature même de la façon dont on gère les villes a changé, c'est plus la planification de réseau traditionnel, c'est de l'écriture de scénario. Et c'est assez différent. Alors, ça permet de mieux comprendre d'ailleurs certains aspects de la gestion des villes. Le fait, par exemple, que avant de fermer à la circulation la voie sur berge, ben on a organisé un festival. Et c'était Paris Plage. Et en fait, aujourd'hui, vous avez un rôle croissant de l'organisation de grands événements, les Jeux Olympiques ou Dieu sait quoi, pour penser le devenir urbain, plus que des plans classiques. Bon, je passe là-dessus. Qu'est-ce que ça, c'était un jeu assez marrant qui vous proposait de hacker les services urbains. Watchdog. Qu'est-ce que je veux dire derrière ça? C'est qu'en fait, toute cette ville des réseaux qu'on a héritée d'Haussmann, d'un certain point de vue, c'est son triomphe. D'un autre point de vue, elle commence à être mise en crise progressivement par toutes ces choses qui ont tendance à converger. Du coup, la question, c'est quoi le modèle urbain de l'avenir? Est-ce qu'il y a un équivalent de la ville des réseaux du 19e pour penser la ville du 21e siècle? C'est une question qui est ouverte. Alors pour terminer, juste pour achever de vous plonger dans le doute et la nécessité de cogiter par vous-même, quelques limites quand même de la ville intelligente, pour terminer. Parce que c'est bon aussi de réaliser que la ville intelligente, c'est probablement pas la solution définitive. Et ça pour un nombre de raisons évidentes. Première raison, le numérique, ça chauffe. Le numérique, ça consomme des tas de choses. Vous savez que le numérique, grosso modo, ça représente à peu près 4% pour l'instant des émissions à gaz à effet de serre, mais le problème, c'est que c'est la croissance la plus rapide actuellement, c'est-à-dire que ça croît de façon tout à fait exponentielle, et donc il y a un vrai problème du numérique, c'est-à-dire que très grosso modo, on ne va pas pouvoir équiper de puces et de capteurs toute la planète. Il y a des problèmes aussi de ressources rares, les fameuses terres rares, etc. Il y a aussi des problèmes dramatiques de recyclage. Vous savez que quand même, une des règles de base du recyclage, c'est tu ne souderas et tu ne colleras rien. Comme ça, tu pourras dévisser, démonter et trier. Manque de peau, le numérique, c'est à peu près exactement l'inverse. Tout est soudé, etc., avec des tas de saloperies qui se dégradent très mal. Résultat, pour l'instant, on regarde pas trop, parce qu'on envoie en Afrique et jusqu'à récemment en Chine, et puis ils se démerdaient là-bas. Les petits-enfants s'empoisonnaient, enfin, c'était horrible, mais quand même, on regardait pas trop. Il y a un vrai problème de conciliation. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas utiliser le numérique, ça veut dire qu'il va falloir rentrer dans une économie de la frugalité numérique, comme une économie de la frugalité énergétique. Et ça, regardez le nombre de recherches idiotes sur Google que vous faites dans la journée, et vous vous rendez compte, et moi aussi d'ailleurs, on n'est pas rentré dans la frugalité numérique. Et c'est pareil sur la vie. Donc ça, c'est une vraie limite. Autre limite, est-ce que, ça c'est quoi, à votre avis? C'est MIT, absolument. J'essaye de ne pas montrer Harvard pour ne pas faire dans la compétition, mais Est-ce qu'une ville intelligente, c'est uniquement fait pour des bacs plus 12? Et ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Est-ce que le numérique, tout ça, c'est quoi? Bon, les trucs gilets jaunes, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est vrai que le rappel insistant, quand même, qu'une société ne se compose pas uniquement de bac plus 12, n'est pas forcément inutile. Du coup, c'est quoi leur place dans la ville? Du coup, d'ailleurs, ces dernières années, on a vu remonter très très fortement des questions d'inclusion, des questions d'égalité, ce qu'on appelle parfois la question de la justice urbaine, c'est-à-dire, en fait, la ville, elle doit être juste comme d'autres choses, etc., et elle est trop loin d'être juste, et la Smart City, pour l'instant, ne résout pas cette question-là. Alors, truc, bon, avec aussi une autre question qui est la diversification des modèles. Ça, vous pourriez croire que c'est un quartier modèle de Zurich. En fait, c'était un projet, soi-disant, de ville de Smart City indienne. Pour quiconque connaît l'Inde, c'est pas impossible, mais c'est peut-être pas la solution des problèmes de l'Inde, qui sont un peu plus complexes que de faire une ou deux banlieues de Zurich à la périphérie de New Delhi. Et vous vous rendez compte qu'en fait, il faut trouver des modèles différents de développement technologique. La ville africaine, entre guillemets, intelligente, c'est pas certainement la même chose que la ville scandinave, etc., etc. Et probablement, dans le cas de la ville indienne, il va falloir capitaliser sur le fait que ben, la richesse indienne, c'est une richesse humaine, etc. Donc, comment on fait? J'avais interviewé, ce qui fait toujours rigoler cette histoire, je dois être le seul, j'avais interviewé à ce propos, il y a une dame qui a écrit un best-seller qui s'appelle « Behind the Beautiful Forevers ». Et vous pouvez taper si vous ne me croyez pas. C'est une dame qui s'appelle Catherine Boo. Elle a en fait fait un bouquin qui est de journaliste sur le plus grand slum, le plus grand bidonville de Mumbai. Et elle m'avait... Alors, Behind the Beautiful Forever, parce que le bidonville était derrière une publicité sur le chemin de l'aéroport où, de carreaux italiens, où il y avait marqué Beautiful Forever, qui était pour la bourgeoisie de Mumbai, qui voulait refaire sa cuisine ou sa salle de bain. Et Behind the Beautiful Forever, il y avait un énorme bidonville. Elle m'avait expliqué qu'en fait, les gamins financent leur téléphone, leur smartphone, en les louant aux adultes pour regarder du porno. Ce que j'avais trouvé très, très sophistiqué comme modèle économique. Mais quand vous dites quand même un môme de 15 ans qui a cette espèce d'idée, vous dites il n'est pas con. Et en plus, c'est quand même plus compliqué de ne pas se faire piquer le portable par l'adulte. Enfin, vous voyez le genre. Donc, en fait, c'est plein de richesses humaines insoupçonnées. Bien. En dernier point, peut-être le plus subtil, c'est que le grand risque des projets de ville idéale technologique, c'est d'oublier une dimension fondamentale qui est celle du temps. Il est frappant, d'ailleurs, que le numérique a aggravé ça. Je crois que je vous l'ai déjà dit, le numérique... finalement, nous a tendance à nous faire croire que l'humanité est plongée dans une espèce de présent perpétuel dans lequel il y a des actualités sans cesse, mais rien ne se passe vraiment qui change la flèche du temps. D'où d'ailleurs le fait qu'une des premières métaphores de la littérature cyberpunk sur le numérique, c'était le strip de Las Vegas. Vous savez, Las Vegas, c'est l'endroit où il se passe tout le temps quelque chose. Les fontaines du Bellagio démarrent, les pirates partent à l'assaut du navire, etc., mais il ne se passe jamais rien. Et en fait, c'est un peu les journaux télévisés, vous savez, avec ce mélange indémerdable de trucs catastrophiques, de chansons de Taylor Swift, et de dans ce village traditionnel des Hautes-Pyrénées, l'art de la poterie, etc. Enfin, ce mélange traité un fin à midi. Moi, je trouve toujours, bon, c'était, j'avais découvert ça, parce que j'y avais jamais pensé, c'est grâce, pour une fois, à Houellebecq, qui avait fait remarquer que Jean-Pierre Pernaut, c'est un témoignage saisissant de la culture française. Le journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut, qui est plutôt tendance retraitée de mon genre, c'est quand même un mélange indémerdable du genre 300 000 morts en Afghanistan à la suite d'un tremblement de terre couplé avec l'arrivée de ISIS, etc. Mais dans ce sympathique village, le festival du géranium fleuri, résultat, ça tend à annihiler complètement votre sens de l'historicité. Et c'est vrai que vous êtes une génération qui vivait avec moins de repères historiques clairs, ne serait-ce aussi parce qu'il n'y a plus d'opposition entre les communistes et les autres, etc. Donc, comme si le futur, c'était comme le présent, peut-être en pire. Et du coup, les villes, c'est un problème, parce que les villes, c'est un dessin d'un architecte italien célèbre sur la sédimentation urbaine. Une ville, ça se nourrit de traces du passé, d'anticipation de l'avenir et des marques du présent. Et il faut tout ça. Et je dirais en conclusion... Quand je vous dis qu'il faut trouver des outils pour la ville de demain, il ne faut pas oublier que la ville de demain, il y aura une ville d'après-demain, et que, en fait, toute intervention sur la ville, c'est toujours une intervention temporaire. C'est ça aussi qui est fascinant dans l'histoire des villes, c'est que l'histoire des villes, c'est quand même un peu l'histoire de l'humanité, et ça ne se résout pas uniquement à une couche technique parfaite, une fois pour toutes. C'est sédimenté. Il y aura un après numérique, il y aura un après, etc. Il y aura un après, bon, dans le cas de Paris, il va falloir, par exemple, gérer... Il est à peu près certain maintenant qu'on va se taper des vagues de canicule de plus de 3 semaines l'été, certains étés. Bah, il va falloir changer beaucoup de choses dans l'architecture, dans la ville, etc. par rapport à ça. Et la vie continue quand même. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors...